Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Romain Poirot, ancien recruteur pour Manchester City, Watford et Manchester United. Avec lui, nous avons évoqué toutes les thématiques du scouting et du recrutement en revenant sur son parcours, son quotidien et ses expériences dans les clubs de Premier League, mais aussi au sein du City Football Group. Nous sommes également revenus sur des sujets connexes comme la place de la data, l'influence du Brexit sur le recrutement et l'évolution des aspirations des jeunes footballeurs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Romain Poirot. Bonjour Romain Poirot et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation.
Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir. Ça peut être les trois en même temps, ça peut même être deux matchs ou trois matchs qui correspondent à ces différentes actions. J'aime bien dire que c'est un peu la Madeleine ou tes Madeleines de Proust auxquelles tu repenses de temps en temps.
Alors, oui, effectivement, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a plusieurs matchs, je pense, qui me viennent à l'esprit. Il y a tellement de choses, j'ai envie de dire, qui me font aimer le football. Allez, tout d'abord, en bon Stéphanois, le quart de finale, 76, Saint-Étienne Dynamo de Kiev. Alors, oui, je suis de 79, donc j'ai pas vécu ce match-là, mais à Saint-Étienne, c'est un souvenir qui se transmet. Et quand j'ai eu l'occasion de le voir pour la première fois, c'est juste étonnant, puisque c'est un condensé de tout ce qu'on peut aimer dans le football et ce qui fait aussi le club de Saint-Étienne et la région. Donc c'est comme tu disais, une Madeleine de Proust. Lorsque tu perds 2-0 à l'aller à Simferopol sur un terrain détruit et tu joues ta vie, au retour, tu gagnes 3-0 avec des buts d'anthologie, surtout un début de match où Oleg Blokhin peut plier d'entrée le match. Et c'est sans un retour de Christian Lopez et une contre-attaque faramineuse qu'on revient à la vie. Donc, scénario, comme tu dis, d'anthologie, Hervé Révelli, Larquet pour finir Rocheteau. C'est vraiment un souvenir à plus d'un titre qui reste gravé dans ma mémoire, déjà de supporter de Saint-Étienne et puis surtout du beau football. Et de ce football, on laisse jamais tomber, j'ai envie de dire un peu à l'anglaise. Deuxième match, la finale 2005, le miracle d'Istanbul, Liverpool-Milan. Là, je peux dire que j'ai jamais pleuré devant des matchs où j'ai jamais eu des comportements. Mais là, je suis tombé du sofa sur l'arrêt de Dudek face à Shevchenko dans les arrêts de jeu qui tue tout. Puis bon, sans parler du scénario du match lui-même, avec le changement de tactique de Benitez, 3-0 à la mi-temps, des erreurs, mais aussi Doudet qui fait des erreurs, mais qui aussi revient dans le match pour sauver Steven Gerrard, exceptionnel, Gallagher, Ipia, du côté Milan, premier but de Maldini, doublé d'Hernan Crespo, c'était vraiment mais tous les ingrédients qu'on pouvait mettre dans un match grandiose, on pouvait le mettre dans ce match-là. Le troisième, il y en aurait d'autres, mais je pense que le troisième, c'est ma première émotion en tant qu'employé de Manchester City. C'était en 2012, le match du titre face à Man United contre QPR avec le but de Kun Agüero à la 94e minute, alors que Man United avait gagné à Sunderland. Et on était virtuellement, on ouvre le score, je crois que c'est Zabaleta qui marque un but un peu grâce au gardien de QPR. Puis c'est Djibril Cissé aussi qui marque. Enfin bon, bref, là encore un scénario où à la fin, quand tu vois les gradins, tu dis mais c'est ça qu'on aime. Et moi, j'en ai pleuré. J'avais un maillot d'Edin Dzeko, je me rappellerai toujours. J'avais pris un week-end ce jour-là. J'étais du côté des Sables d'Olonne. J'avais mon maillot d'Edin Dzeko et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais fier d'appartenir à ce club, fier d'être dans un club qui a gagné le titre de champion d'Angleterre. Et puis surtout, voilà, en tant que recruteur, travailler dans une institution qui arrive à atteindre ces niveaux de performance, bah, ça fait toujours, c'est un peu comme une consécration. C'était la première fois où j'avais cette émotion en tant que professionnel. Voilà, donc, mais là encore, comme tu vois, trois schémas vraiment d'anthologie, c'est-à-dire des matchs à rebondissement avec des supporters en folie. Pour moi, c'est ça le football.
Il y a un espèce de point commun de score qui est retourné en fait dans tous tes souvenirs.
Oui, puis c'est surtout aussi des clubs mythiques, je pense, des clubs populaires. Bon, alors City ne l'était peut-être pas à l'époque, puisqu'on se faisait targuer de clubs milliardaires qui achetaient des joueurs. Alors c'est vrai, Mancini, à un moment, il fait des remplacements, il fait des super coachings, hein, puisqu'il fait rentrer Dzeko marque, il fait rentrer Balotelli marque, il sort Tevez, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Barton
est expulsé.
Il commence à le chatouiller. Certes, c'est un club milliardaire, mais aller chercher un but quand même comme ça à la 94e minute, il faut avoir, comme on dit, les coronets d'aller le faire. Puis surtout, quand on voit les visages dans les tribunes, OK, le club est riche, mais Man City, c'est le club de Manchester City, du centre-ville, et un club qui avait une histoire avant. Man United, j'ai eu la chance de travailler dans les deux clubs, c'est ces deux clubs qui pèsent dans la ville. C'est pas un qui est plus petit que l'autre, c'est des dizaines de milliers de supporters. Donc, c'est un espèce de derby à distance, c'est ça qui est phénoménal. Et puis, quand on voit les visages des supporters, mais il y a des gens, ils étaient fous. Il y en a qui ont pleuré, il y en a qui mettaient des coups de pied dans les sièges, il y a des joueurs qui ont fini à l'envers dans la tribune. Donc voilà, il y a aussi la finale 98, s'il fallait que j'en rajoute. J'étais place du peuple à Saint-Etienne. Je me rappelle avoir été soulevé par la foule à l'époque, j'avais 17 ans. C'est un souvenir mémorable. Donc tu vois, il y en a des souvenirs.
Ouais, exactement. Il y en a pas mal. Justement, c'était quoi ton rapport au foot quand tu étais enfant ou adolescent? Tu pratiquais pas du tout? En club, avec des amis ou...
Ouais, j'ai une carrière modeste de joueur. On va dire, j'étais un bon joueur régional, buteur. J'ai presque tous les postes. J'ai commencé gardien de but, après libéraux, après j'ai fini attaquant de pointe. J'ai bien tourné sur la région Rhône-Alpes dans des clubs majeurs comme Feur, Firminy, pour ceux qui connaîtront. J'ai eu la chance d'aller tâter un peu du foot pro à Valence quand le club était en deuxième division. Je sais pas si tu te souviens, le coach était Bruno Metsu, qui avait fait après une belle carrière de sélectionneur du Sénégal, qui malheureusement nous a quittés, qui est un grand monsieur du football. Malheureusement, juste le temps de comprendre pendant une année en jouant en CFA 2 que c'était pas fait pour moi, j'étais toujours blessé, etc. Et justement, j'ai toujours convaincu, je voulais travailler dans le football. Alors, pas assez talentueux, peut-être, pour devenir joueur, mais j'étais persuadé que je voulais faire quelque chose dans le football. C'était en moi, et je pense que ça vient de cette jeunesse, justement, à Saint-Étienne, de cette passion, parce que quand on est Stéphanois, on pense qu'il y a une chose, c'est jouer au ballon, mais je jouais tout le temps. C'est-à-dire que depuis tout petit, on organisait des parties dans la rue, ou sur un stade à Terre-Noire, de là où j'habitais, on prenait un ballon, on faisait des équipes, mais c'était jusqu'à la nuit tombante. Donc, c'est peut-être des choses qu'on voit peut-être un peu moins maintenant, mais c'était jusqu'à l'épuisement. Et puis, le foot, pour moi, j'ai eu cet exemple de foot rassembleur, c'est-à-dire que peu importe d'où on venait, on faisait des parties de foot, tout le monde était là. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de couleur, pas de religion, il n'y avait rien. Pour moi, c'est le foot c'est ce football-là qui m'a construit. Peut-être, oui, parce que je suis de cette région qui aime le foot, mais je crois aussi beaucoup aux valeurs de ce sport. C'est-à-dire, c'est quelque chose voilà, qui nous anime, c'est une vraie passion.
Alors, comment tu fais le switch entre le moment où tu comprends du coup que le foot, c'est pas pour toi, et tes premières activités dans le milieu du foot, dans le scouting?
Alors, il y a eu une étape entre le foot joueur et le foot scouting où j'ai été agent de match. une activité où tu organises des matchs amicaux pendant les périodes estivales. Donc je m'étais lancé là-dedans. À un moment, bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais un autre job à côté, et puis surtout on n'en vit pas si on n'a pas beaucoup de moyens. Donc j'ai réussi à faire quelques organisations de matchs amicaux, notamment avec l'AS Saint-Étienne. C'était sympa, mais c'était pas encore ce que je recherchais. Et heureusement, j'ai rencontré, j'ai envie de dire, une personne qui était très importante pour moi, c'est Yannick Gaden, qui était recruteur à l'époque pour le SC Bastia, qui est passé par Saint-Étienne aussi et Brest, qui était proche d'Alex Dupont, qui est, enfin voilà. Donc c'est quelqu'un que je connaissais. Et un jour, donc quand j'étais sur Paris, il m'a dit, bah, écoute, viens avec moi, je recrute et tout. Et à ce moment-là, j'avais un regard assez À l'époque, recruteur, c'était pas encore très connu. C'était en 2000, et encore, c'était en 2008. C'était il y a pas très longtemps, mais ça a vraiment explosé les 10 dernières années de métier de recruteur. Donc, personne encore connaissait vraiment. Et quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai eu une révélation. Je suis tombé amoureux de ce job. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'aime voyager, j'aime parler plusieurs langues, j'aime le football, j'aime passer des heures à regarder des matchs. Et voilà. Et là, j'ai trouvé le condensé de tout ce qui pouvait me plaire en un job. Donc là, je me suis lancé.
Et comment tu arrives du coup à Nottingham? Enfin, comment tu réussis à collaborer avec Nottingham?
Là, justement, c'est encore Yannick qui m'avait connecté avec des personnes qui avaient rendez-vous là-bas. Je crois que c'était des managers à l'époque, des agents, et ils avaient besoin de quelqu'un pour traduire. Et j'ai dit, bah tiens, je montais avec eux. Alors ça, c'était à l'époque moyennement passé, très très moyennement passé. C'est-à-dire, je m'étais retrouvé un peu dans une situation où je devais traduire des choses qui étaient un peu des noms d'oiseaux, et ça m'allait pas. Moi, j'étais pas venu pour ça. Il y avait une dispute entre le directeur du recrutement et les impresarios concernant un joueur. Et moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de traduire parce que je suis pas là pour dire des noms d'oiseaux. Et donc, au final, une semaine après, donc, je renvoie un mail, donc je rentre sur Paris. J'étais dégoûté, pour tout te dire, de ça, et pas du métier de recruteur, mais de cette première approche. Et donc, j'envoie un mail au directeur du centre de formation pour m'excuser de cette situation en disant, voilà, écoutez, je voulais pas qu'on en arrive là, c'est pas mon joueur, voilà. Et à un moment, il me dit, mais toi, tu es dans le recrutement, c'est ça? J'ai dit, bah oui, je regarde des matchs sur la région parisienne, j'avais un job à côté. Hein. Il m'a dit, bah écoute, si ça t'intéresse, fais-moi venir des joueurs. Et ça, c'est vraiment typique des clubs anglais ou de la mentalité anglaise où, j'ai envie de dire, on te dit, écoute, bah viens, fais tes preuves. Là, j'avais la porte ouverte en face de moi. Il restait plus qu'à passer la porte, à foncer. J'ai commencé, donc, comme on dit vulgairement, à tourner sur la région parisienne, sur les terrains. Et j'ai fait venir un premier joueur, donc U17, qui jouait au Havre. Un bon joueur. Et il est venu faire un essai. À l'époque, ça n'avait pas été concluant parce qu'il y avait une indemnité de formation à payer, voire même un transfert. Et le club ne pouvait pas payer ou ne voulait pas prendre le risque de faire venir les jeunes. C'était à l'époque, tu sais, où il y avait Pogba qui partait. Donc, c'était très, très sensible au niveau
Il y
juridique.
avait Pogba, Kakuta, je pense que c'était à peu près à la
Voilà,
même
il y avait
époque.
beaucoup de problèmes autour des jeunes Français qui partaient en Angleterre. Ils se sont dit, on va pas aller dans ce bourbier. Par contre, ils m'ont dit, écoute, le joueur que tu nous as fait venir est très bon, on te propose un contrat. Mais c'est un contrat en bonne et due forme et tout. Donc là, bah, première victoire, j'ai envie de dire. T'es pas embauché, t'as pas un contrat. J'avais juste un contrat en disant, voilà, tu as les frais de déplacement. Si tu signes un joueur, tu as ça. Voilà, tu viens quand tu veux, etc. Mais c'était pas un contrat de travail, c'était un contrat de prestation de service. Donc j'ai monté une petite société en Angleterre, à Londres, une boîte postale comme on dit, puis j'ai commencé à travailler comme ça.
Et à ce moment-là, est-ce que tu continuais un autre métier, comme on dit des fois, un métier alimentaire à côté? Parce que une réalité que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que...
J'ai pas de secret par rapport à ça,
Oui,
c'est-à-dire...
non, non, mais c'est que dans l'imaginaire collectif, recruteur, on arrive, ça y est, on est embauché par un club, etc. Alors qu'en fait, la réalité est différente.
T'as deux solutions, soit tu vis du métier de recruteur, soit t'en vis... Il y a beaucoup de recruteurs qui travaillent au week-end dans le milieu, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas parce que demain on a la carte, je sais pas moi, je veux pas cibler en particulier, mais du Stade Rennais, de l'AS Saint-Étienne ou de Lyon, enfin, voilà, que la personne est automatiquement embauchée. Souvent, il y a des personnes qui travaillent la semaine, j'en connaissais d'ailleurs, sur la région parisienne, qui la semaine gardaient des musées et le week-end allaient voir des matchs pour un club pro. Donc après, oui, donc soit embauché en CDI, en CDD en France, simplement en Angleterre, ça marche pas comme ça. Tu peux être embauché, mais il faut habiter là-bas. Donc ce qui s'est passé même à Manchester City pendant quasiment 7 ans, c'est que j'avais une entreprise et on facturait des prestations. Après, Man United, j'étais embauché, oui, parce qu'ils fonctionnent différemment.
On va dérouler un peu ton parcours dans quelques instants. Tu as commencé à en parler avec Nottingham, avec United, avec City, City puis United. Il y en a eu un autre entre-temps. Est-ce que c'est un hasard d'avoir... Alors, au départ, tu dis Nottingham, on t'a aidé, entre guillemets, à te mettre en connexion avec Nottingham. Mais est-ce que ce parcours en Angleterre est dû simplement à des rencontres, à des demandes, voilà, des gens qui viennent te chercher, les chercheurs de tête qui te trouvent et qui te proposent des choses? Est-ce que c'est simplement ce hasard-là ou est-ce que c'est le côté football anglais qui t'a toujours un petit peu attiré et qui parfois, si t'avais eu deux propositions, je dis une bêtise, entre l'Allemagne et l'Angleterre, bah t'aurais forcément privilégié l'Angleterre?
Je crois que là encore, on en revient à l'enfance. Quand t'es stéphanois, t'es proche d'un football qui se rapproche énormément du football anglais. C'est-à-dire que moi, j'aime le foot anglais. Quand j'étais jeune, j'avais envoyé des lettres de motivation au Celtic, même à Manchester City, je crois, je me rappelle, hein. J'avais envoyé des courriers pour faire des essais, hein. Donc, j'étais très motivé. J'étais même parti, à la fin de mon année de Valence, j'étais parti en Écosse, faire des essais en deuxième division, troisième division. J'avais arpenté toute l'Écosse. Donc, j'ai une vraie proximité culturelle et personnelle avec ce pays parce que bah, j'ai découvert que j'avais quelques origines très lointaines. Et j'aime ce football engagé et tout ce qui véhicule. Donc, l'un dans l'autre, il y a déjà une proximité culturelle. Et à Saint-Étienne, c'est un peu Leeds, c'est un peu ville ouvrière avec des valeurs populaires, un football engagé, très axé sur le physique, sur le don de soi, sur la résistance. Donc, oui, il y avait une vraie proximité culturelle et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est-à-dire que quand tu vois mon CV, j'ai fait que des clubs anglais, anglo-italien pour Udinese, mais c'était le temps de comprendre que j'étais plus proche de du côté anglais. Voilà, donc il y a une faction de fonctionnaires chez eux qui transige pas. Il y a un certain niveau de professionnalisme, ils ont aussi les moyens, hein, faut pas se cacher, ils ont aussi beaucoup de moyens investis dans le technologique, l'athlétique, etc. Mais il y a ce côté respect du jeu et de tout donner toujours pour soigner le détail qui fait qu'on peut gagner un match.
Justement, on y vient. La Première Ligue, c'est le championnat le plus riche, les clubs sans doute les plus staffés à de nombreux postes, y compris dans le scouting. Par rapport à ta connaissance du milieu, à ce que tu as pu observer ou ce qu'on t'a fait remonter dans d'autres pays, c'est vraiment un autre monde, la Première Ligue, ou est-ce que finalement, au fur et à mesure des années, en voyant le succès en Première Ligue, les autres championnats et donc les autres clubs des autres championnats ont fini par s'aligner?
Alors, d'une vision élargie, je pense que si tu vas, ça dépend souvent qui a des moyens et qui n'ont pas de moyens, c'est toujours pareil parce que tu as des clubs de première ligue, top 5, qui ont des moyens hallucinants au niveau des entraînements, etc. Puis tu vas à la Nottingham Forest, qui est un championship, où tu verras que tu n'as pas les mêmes moyens et les mêmes capacités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des catégories aujourd'hui de centres de formation et de clubs. Hein. Il y en a qui ont plus de moyens et qui investissent et d'autres qui en ont moins. Par contre, il y a une ligne directrice, c'est-à-dire que les pelouses sont toujours super bonnes. Il y a toujours une émulation, des staffs assez consistants que peut-être si tu vas dans des clubs français, tu n'auras pas, ou moins. Voilà, les installations sont toujours nickel.
C'est un peu en train de changer. Alors, tu viens d'évoquer la pelouse, justement. En France, on commence aussi depuis 3, 4, 5, 6 ans à voir des personnalités un peu reconnues arriver pour occuper ce type de poste. On pense évidemment, je viens de perdre son nom, à l'anglais qui est au Paris Saint-Germain, Calterwood. On pense aussi à l'OGC Nice, qui a quelqu'un qui s'occupait du Clairefontaine anglais et qui s'occupe des pelouses. Donc c'est en train un petit peu d'arriver.
Voilà, oui, mais tu vois, ça nécessite des investissements. Et puis ce sont des clubs, je pense. Alors est-ce que, je ne sais pas, pour Nice, c'est une bonne info. Est-ce qu'il est arrivé avec Ineos, enfin du moins avec cette influence
Il
un
me
peu grecque?
semble, oui.
Mais là encore, PSG, c'est une grosse cylindrée. Ils ont des moyens pour embaucher, pour aller débaucher, surtout l'un des meilleurs jardinier. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'exemple qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la pelouse, les ballons, la qualité du matériel, l'organisation. J'ai vu des organisations académies et pro, hein, c'est-à-dire que dans le cadre de mes postes, j'ai pu et collaborer avec les académies et avec les services pro. C'est toujours nickel chrome. Et je dis pas que ça n'est pas en France, mais tu sens que bah voilà, y a un engagement, des moyens qui sont différents. Alors après, si tu parles du Bayern de Munich ou du Milan AC, je pense qu'il n'y a pas trop à redire ou à comparer des autres clubs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, tu vois au Real Madrid, quand tu vois leur centre d'entraînement, au Barcelone ou autre, sur ces gros clubs, je pense qu'il y a une certaine similitude par rapport aux Anglais, je te parle. C'est juste après dans les divisions inférieures peut-être ou dans les clubs un petit peu moins structurés. Par exemple, Udinese. J'ai vu l'académie, c'est pas terrible, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que tu vois les terrains, les pelouses, les vestiaires, bah tu vois déjà que t'es pas dans un top 5. C'est pas qu'ils ne voudraient pas, c'est que simplement il faut des moyens pour tout ça.
Mais est-ce que c'est pas aussi une question de politique sportive dans le sens où on sait qu'à l'Udinese, il n'y a pas forcément de passerelle entre la formation et l'équipe première?
Là, il y a un choix qui est fait, c'est-à-dire que tout ce qui touche à l'équipe première, c'est qualité. Dès que tu descends à l'académie, voilà. Donc, tu vois, comme tu dis, il y a tous ces choix qui sont faits à un moment, mais c'est budgétaire. Moi, je pense que Gino Pozzo a toujours adoré les joueurs, les jeunes joueurs. Bon, après, toujours étranger, hein, pour profiter de son système triangulaire autrefois, hein, qui était très précurseur. Après, voilà, j'ai envie de dire, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas spécialement de l'argent à mettre sur les jeunes Italiens ou parier sur les jeunes Italiens ou les mettre dans les meilleures conditions pour réussir. C'est plutôt au-dessus, équipa, que tout est orienté, oui.
Si on pense au recrutement de jeunes à destination des académies, comme tu as travaillé à City, à United, quelque chose que je me demande, tu sais, avec l'évolution, les jeunes qui veulent un peu tout tout de suite, etc. Est-ce que le seul nom de Manchester City et Manchester United est encore suffisant pour attirer ces joueurs-là? Ou est-ce que tu as le sentiment que maintenant, les jeunes pensent de plus en plus quand même à leur carrière, leur parcours individuel, et donc ils vont chercher beaucoup plus du temps de jeu, et donc ils vont accepter d'aller peut-être à l'échelon inférieur en termes de réputation de club, plutôt que d'aller dans les top top clubs. Je te prends un exemple, on voit aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes Français qui vont par exemple à Gladbach, à Dortmund, à Leipzig, alors c'est côté allemand pour le coup, mais par exemple Maxime Lopez va à Sassuolo, alors lui c'est un joueur professionnel déjà, mais quel est ton avis là-dessus entre la réputation qui peut t'attirer et aussi finalement ce que les jeunes veulent avoir en termes de projet individuel pour eux, pour bien démarrer leur carrière professionnelle?
Tu parles de Maxime Lopez, je vais rebondir là-dessus. Maxime Lopez s'était fait repérer au tournoi de Saint-George Park des U17, il était monté avec l'OM, il avait joué Chelsea, et à partir de ce moment-là, les clubs anglais le suivaient de près. Par contre, il fait partie des jeunes qui ont souhaité rester dans leur club formateur, et quand tu regardes les statistiques, il y a très très peu de joueurs qui réussissent en première ligue issus des rangs des U16. C'est-à-dire que l'âge légal avant le Brexit, c'est 16 ans, d'accord, avec un parcours aménagé pour une formation scolaire, etc., afin de pouvoir, maintenant ça c'est terminé, hein, c'est 18 ans avec un quota de points à obtenir, et c'est 3 joueurs de moins de 21 ans par mercato. Donc à l'époque, j'ai envie de dire, où les portes étaient ouvertes, il y avait beaucoup de Français qui partaient, je pense que l'entourage y fait beaucoup. Est-ce qu'on est bien conseillé ou pas bien conseillé? Là, je mets les agents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très séduisant de se voir proposer un contrat longue durée avec un grand club anglais, avec de l'argent certes, mais qui n'est pas l'argent, faut pas non plus fantasmer, alors peut-être pas l'argent qu'un club français pourrait proposer, mais c'est pas non plus, au regard du marché en lui-même, une somme suffisante qui puisse permettre aux joueurs de se faire respecter et pousser vers le haut. Si tu vois ce que je veux dire.
Je vois.
C'est-à-dire que c'est pas suffisant dans un vestiaire pour dire, bah, écoute, zut, lui, il faut le faire jouer parce qu'on a mis 10, 15, 20 ou 30 millions sur lui. Parce que c'est comme ça que ça marche, un rapport aussi à ça. Alors, si le jeune est talentueux, oui, mais la plupart du temps, de ce que j'ai vu de tous les jeunes cracks, les Aliadier, bon, il a eu sa chance, Arsenal, mais ça n'a pas marché. Il y a eu Jérémy Elan, un gros flop. Il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont voulu partir donc, dans les clubs anglais très jeunes, et ça n'a pas marché. Et on s'est aperçu, qui réussit, c'est ceux qui restent et qui signent leur premier contrat pro jusqu'à pas 16 ans, mais on va dire à 17-18 ans, à la fin de leur contrat aspirant, qui ont le temps de faire 2-3 saisons en France, de sortir en équipe première et qui partent pour une somme conséquente et une expérience minimum pour pouvoir survivre dans un vestiaire, dans un championnat aussi compétitif.
J'ai un exemple en tête, Romain, que je connais un petit peu, c'est Thierry Ambrose, qui était issu du centre de formation de la GIA, que je connais un peu, qui vous avait rejoint à 16 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à City. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cas-là, justement?
Alors oui, le contexte de recrutement de Thierry, je le connais très bien, parce que j'étais au bord du terrain. C'est un recrutement qui s'est fait très rapidement, puisque, pour être totalement honnête, hein, mais non, je crois qu'il y a prescription, à l'époque, on cherchait un numéro 9 pour l'académie. Donc c'était au mois de février-mars, qui est très tard. Et donc, à un moment, on a une réunion à Man City, on me dit, écoute, on a besoin d'un numéro 9 pour l'académie, on n'a personne. Qui y a en France qui, aujourd'hui, pourrait venir chez nous sans nous coûter trop cher et permettre d'avoir le niveau suffisant pour porter l'académie. Je regarde mes notes et je dis, bah, écoutez, en ce moment, ce que je sais, c'est qu'il y a un jeune joueur, c'est Thierry Ambrose. Il était international à l'époque. À Auxerre, c'est le joueur qui est devant, c'est-à-dire qu'il voulait lui proposer pro à l'époque. Il avait refusé de signer pro. Et là, il y avait une fenêtre de tir. C'est-à-dire que, à partir du moment où contractuellement, Thierry s'était pas engagé avec Auxerre, je sais qu'à l'époque, Giroud, lui, tout le monde lui faisait la cour, j'ai dit, là, il y a une brèche pour avoir un joueur d'un niveau suffisant pour répondre à notre demande. Donc, on est allé le voir, je crois, c'était contre Sochaux, en U19, à Sochaux, sur un match. On a fait sur un match. Hein. Gary Worthington, qui était responsable du recrutement à l'époque, vient avec moi, je vais le chercher à l'aéroport de Bâle. On va à Sochaux, à Montbéliard, et on regarde le match. Et il ne marque pas, mais il fait un très bon match. C'est-à-dire qu'il peut faire deux passes D, mais c'est le... On va dire l'attaquant rate le cas, donc voilà, il fait un bon match pour un joueur de 16 ans dans les 19 nationaux, et il me regarde, il me dit, bon, bah allez, banco. On fait le joueur comme ça, donc on rencontre la famille, des gens très bien, qui eux, tout de suite, on dit, waouh, Manchester City, on vient tout de suite, quoi. C'est-à-dire que, bah non, ni une ni deux, donc on vient. Donc là, il y a eu ce côté séduction par le nom, j'ai envie de dire. Et bon, Titi vient chez nous, il signe, première année, meilleur buteur de l'académie, donc contrat rempli. En ce qui me concerne, il remplit la mission qu'on lui dit. Il commence à faire avec Pellegrini à l'époque, parce qu'il y avait Bakary Sagna chez nous à l'époque. Ils sont de Sens tous les deux. Donc, Bakary l'avait pris sous son aile avec Yaya Touré et tout ça, enfin, tu sais, avec les Français et les francophones. Et donc, il commence à s'entraîner avec les pros. Et malheureusement, il a eu des blessures, deux grosses blessures, justement la veille d'un match de Ligue des Champions où il devait être sur le banc. Il a vraiment pas eu de chance, Thierry, chez nous. Mais voilà, après, bon, faisant partie, donc Manchester City, n'oublie pas, est devenu le City Football Group.
Exact.
Ce qui a offert après un panel de choix pour des prêts, donc très élargi. Mais bon, Thierry n'est pas allé dans des clubs qui étaient Girona ou New York ou autre, contrairement par exemple à Angelino, par exemple, tu sais, qui joue à Leipzig.
Ouais, bah que j'ai découvert aux Pays-Bas, moi. Je l'ai découvert au Vitesse et après au PSV.
Mais il faut savoir qu'il était allé à New York City, hein. C'est quand même pas rien, fallait l'accepter, ça. Et Thierry, je pense, a préféré aller sur des clubs un petit peu plus conventionnels. Donc, il est allé, je crois, en Hollande. Et après, bon, il est allé sur des clubs de Ligue 1 comme Metz et autres. Mais voilà, effectivement, c'est un profil où, au départ, il y avait un potentiel, mais il fallait rester prudent sur sa capacité à intégrer l'équipe première de Manchester City. Voilà. Moi, il répondait à un canevas pour une demande précise. Et voilà. Mais après, je pense que les gamins, ils viennent à Manchester City, ils ont quand même une occasion de progresser en s'entraînant avec les pros, qui est pas celle qu'on peut avoir vraiment en France, parce que tu as la pression des médias, tu as l'intensité à l'entraînement, tu t'entraînes avec des stars mondiales. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, ça se défend aussi. Mais il faut avoir après les capacités de passer le palier et d'aller chercher ces minutes, ces temps de jeu avec les pros à Manchester City, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Est-ce que dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, entre le début de ton travail avec Man City et la fin de ton aventure à United, tu as eu noté une évolution, alors elle peut être positive ou négative, dans la vision de leur carrière des jeunes footballeurs? Je disais tout à l'heure, on a affaire à des jeunes joueurs qui de plus en plus veulent franchir des paliers sportifs avant de rejoindre un énorme club européen. Est-ce que toi, t'as noté ça? Est-ce que t'as noté, tu disais tout à l'heure, il faut être bien entouré. Est-ce que t'as noté des changements de comportement dans les entourages? Le fait de vouloir jouer beaucoup plus rapidement qu'avant, chez les jeunes joueurs, par exemple, d'où la recherche de temps de jeu plutôt que la catégorie ou la réputation du club. Sur le professionnalisme aussi, ça peut être des joueurs qui sont de plus en plus professionnels plus tôt, ou inversement, qui le sont peut-être un peu moins maintenant qu'avant. Comment tu juges ça?
J'ai un point de vue un peu plus matriciel, c'est-à-dire qu'il y a les joueurs, oui, mais aussi le contexte français. Aujourd'hui, le championnat de France a un marché d'exportation. Donc, ce qui fait que les clubs vont pousser les jeunes maintenant, beaucoup plus qu'avant, puisque le business model est basé sur le trading, du moins les transferts. Donc, les clubs poussent les jeunes déjà beaucoup plus vite. Donc, certains jeunes qui ont le talent ou autres peuvent être déjà sollicités par le club lui-même. D'accord? Il n'y a pas que l'environnement, il y a le club. Donc, il ne faut pas oublier, il y a ça. Bon, après, ils ne le font pas avec des joueurs qui n'ont pas les capacités. Maintenant, si on en revient aux joueurs, moi, je ne sens pas véritablement de changement. On a eu Henri Trézéguet à l'époque, qui ont commencé à jouer à 17-18 ans dans les grands clubs, Coupe du Monde à 20 ans. Donc, ça, j'ai envie de dire, les jeunes joueurs en France, ça a toujours été ça. Les entourages, moi, je note que dans le milieu des agents, il y a un rapprochement. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits agents, j'ai envie de dire, qui détiennent les grands joueurs ou les joueurs les plus prometteurs. On voit, par exemple, Camavinga qui va avec la société anglaise, avec Stellar. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les familles ont compris qu'il fallait quand même être bien, bien conseillé pour pouvoir bien, bien progresser. De ce point de vue-là, mais tu sais, ça n'empêche pas aussi certains joueurs qui veulent aller plus vite que la musique, hein.
Oui, bien sûr.
Et là, par contre, il peut y avoir de la casse aussi. Il faut faire très attention. T'en as toujours qui sont ambitieux, j'ai envie de dire, ça tient aux joueurs. Il y a des joueurs qui sont très arrogants, qui croient en eux, qui se disent, ouais, mais moi, je peux aller là, au Real Madrid, à 18 ans. Je te prends par exemple Hassan Diarra, à l'époque, il savait où il voulait aller, hein. C'est un joueur qui dit, moi, un jour, alors qu'il n'était pas dans un club, il dit, moi, un jour, je joue au Real Madrid. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est une approche quand même très, très personnelle. Mais je pense que oui, c'est plus structuré. Les joueurs sont un peu plus structurés parce que je crois que les clubs formateurs font aussi un travail de communication sur faire attention à ce qu'on vous propose. Faites attention à vous, à votre nutrition, à votre carrière, etc. C'est beaucoup plus pro. Oui, en 10 ans, il y a quand même eu. Moi, je me rappelle quand j'étais joueur. Bon, c'était pas il y a 10 ans, c'était encore un peu plus loin. Il n'y avait pas de suivi psychologique, il n'y avait pas très peu de préparation. La nutrition, on ne regardait pas. Les blessures, c'était un peu comme ça. Quand je vois aujourd'hui les jeunes, comment ils sont suivis, mais c'est impressionnant, la chance qu'ils ont. Ils peuvent faire du travail additionnel, il y a des entraînements spécifiques. Enfin, franchement, c'est oui, il y a eu toute cette évolution-là, je pense, qui prépare les jeunes aujourd'hui à être beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, cette éducation, cet apport, je pense, aide à les rendre un petit peu plus matures. Mais d'un autre côté, je crois aussi qu'on a affaire aujourd'hui à des générations qui, psychologiquement, sont peut-être moins fortes pour certains qu'avant. Parce que peut-être plus la génération, j'ai envie de dire PlayStation.
Tu veux dire face à la difficulté, ils répondront peut-être.
Moi, je prends des exemples, alors, il faut faire revenir, parce que, voilà, bon, j'ai 41 ans, mais j'aime bien regarder l'histoire du football. Rousset, Paganelli, qui a dit plusieurs fois que s'il avait été suivi à l'âge de 16 ans, il aurait pu faire beaucoup mieux. Beaucoup d'espoir déchu aussi, parce que le football était dur à cette époque. On n'écoutait pas les jeunes. C'était ça marche, ça passe ou ça casse. Paganelli l'avait dit dernièrement, d'ailleurs, dans une de ses interviews, il avait dit, mais si quelqu'un m'avait dit, fais gaffe, sors pas trop, t'es jeune, mets de l'argent de côté, il aurait peut-être pas eu les soucis qu'il a eu. Il l'a même avoué, et ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était à la dure. C'était à la dure, il n'y avait pas toute cette attention, pas tous ces médias, tous ces réseaux sociaux qui changent un peu la donne aussi. Plus le joueur est protégé, j'ai envie de dire, plus il a de chances quand même de se développer. Et pour être protégé, il faut un environnement, des parents qui comprennent leur position, leur positionnement dans la prise de décision, des agents qui comprennent le potentiel du joueur et vers quel marché, quel championnat il peut s'orienter en fonction de ses qualités, de sa psychologie, savoir s'il est prêt ou pas. Souvent, il faut aller contre le club. C'est pour ça que je parle des agents, parce que souvent, c'est eux qui peuvent dire « ta 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 ». Non, nous, on n'est pas d'accord qu'il aille tout de suite en pro parce qu'il n'est pas prêt psychologiquement. Quand on est bien entouré comme ça, eh ben, y a des alignements de planètes qui peut faire. Hein, Wesley Fofana, qui n'était pas spécialement sur les radars il y a longtemps, mais qui, en 2-3 ans, passe de U19 à Saint-Etienne à l'équipe 1 de Leicester.
Si on revient un petit peu sur ta mission à City, tu as d'abord commencé avec l'entité Manchester City, avant de basculer sur l'entité City Football Group. Quelles étaient tes missions là-bas et en quoi le passage de... Enfin, l'arrivée de ce City Football Group, la mise en place de ce groupe mondial, en fait, a pu te faire voir d'autres choses dans ton travail de scout.
C'était un changement total et définitif. J'ai envie de dire, on est passé dans le football mondialisé. Enfin, il était déjà, il est depuis la Coupe du Monde 94. Le football a vraiment changé à partir de ce moment-là, que ce soit sponsoring, médias, etc. Quand je suis arrivé donc en 2010, en décembre 2010 à Manchester City, j'ai signé mon contrat. Au départ, j'étais académie et soutien de John Gannon, qui était le scout France senior. 2 ans après, donc John est muté sur le marché italien et je m'occupe à temps plein des U13 jusqu'au pro pour City. Donc ça, c'était ma mission. Donc je faisais académie et pro. J'avais les deux casquettes. Donc ce qui faisait travailler comme pas possible, parce que quand on est tout seul, c'est dur. Mais après, bon, on recherche aussi une certaine qualité de joueur. Donc on va pas voir non plus tous les matchs. On les choisit, on se renseigne bien. Et par contre, en arrivant, 2014, c'est parfait parce que ça jouxtait le moment où j'avais repris mes études. J'ai fait un master à Limoges, au CDES de Limoges pour droit économie du sport, et c'est tombé pile poil parce qu'à ce moment-là, justement, en tant que scout, académie et pro à l'époque, on n'était pas trop mêlé à tout ce qui était économique, c'est-à-dire les salaires des joueurs, etc. Bon, on les connaissait par exemple, aujourd'hui, il y a un article dans l'équipe qui parle de tous les salaires de la Ligue 1. Bon, ok, fallait savoir à peu près combien gagnait un joueur, mais quand j'ai fait le transfert de Samir Nasri, quand j'ai été convié au transfert de Samir Nasri, à l'époque, je ne savais même pas combien il gagnait. J'ai organisé les rendez-vous à Marseille, à l'aéroport Marignane, avec l'agent de Samir et nos dirigeants, et ni plus ni moins, je traduisais. Tu vois, je n'avais pas spécialement... Par contre...
Je me permets de te couper, tu étais plus à ce moment-là sur la détection-observation, en fait.
Bah, je l'ai toujours été, en fait. C'est que là,
non, mais je veux dire que tu n'avais pas de...
Non, il n'y avait pas de prérogative sur tout ce qui est une approche financière. Je n'avais pas le droit. C'est-à-dire que sur des dossiers haut niveau, comme ça, je ne peux pas commencer à dire « Ah oui, non, vous promettant ». C'est pas possible. Par contre, moi, je me rappelle toujours, je te cite une anecdote, pour le transfert de Nasri, je suis au bord du terrain à Paris, au PSG, je regarde les U17. À l'époque, c'était la génération 97. Il y avait Jean-Kévin Augustin, enfin, c'était toute cette génération-là. Et j'ai un coup de fil, comme ça, mais 0044, un numéro anglais qui m'appelle. Je ne sais pas qui c'était. Je décroche, il pleuvait, je me rappelle, je m'en parapluie. C'était le Big Boss, directeur sportif Mike Rick, qui m'appelle et qui me pose une question. Il me dit, Romain, Nasri, possible ou pas?
Ok.
Donc, t'imagines, d'un coup, je suis en train de regarder un match, il pleut, il y a des gens autour de moi. J'avais même pas, ne serait-ce qu'envisagé que j'aurais affaire à des questions comme ça. Je connaissais Samir, bien sûr, hein, qui jouait à Arsenal à l'époque. Et je devais répondre. C'est-à-dire, c'était oui ou non, selon toi. Et ben là, tu te dis, attends, quel prix il va coûter à peu près 25 millions. Le salaire, oui, il n'y a pas de raison. Le profil de joueur, bah ouais, je pense. Hein. Donc j'ai dit oui. À partir de là, tout s'est décalé. Tu vois, donc c'est le seul. Et après, rendez-vous, meeting. Et puis là, par contre, j'ai vu les chiffres, mais j'en parlais pas. J'étais dans la salle et je traduisais, moi. Voilà, j'ai accompagné les agents, etc. Pour tout, entre guillemets, je faisais l'accompagnement et la traduction. Mais bon, ensuite, City Football Group, là, on a commencé à nous développer. Enfin, moi, j'ai adoré ça, hein, parce que justement, à ce moment-là, j'avais repris des études en master que je faisais à côté donc, de mon travail. On parlait de la segmentation des marchés, de la mondialisation du football, etc. C'était super intéressant. Et ça collait parfaitement à City Football Group. C'est-à-dire que du jour au lendemain, heureusement, j'ai fait cette formation parce qu'on me demandait de faire des prévisionnels, déjà de trouver les salaires des joueurs, de discuter avec les agents à propos des salaires des joueurs, des éventuellement tarifs de transfert, etc. Parce que quand, à l'époque, donc, on avait New York, Yokohama Marinos et Melbourne City. C'était les trois clubs qui, et Girona. Mais Girona, c'était pas pareil. Donc, quand il a fallu, j'ai envie de dire, calibrer le marché français aux demandes de ces trois clubs-là, qui ont trois championnats totalement différents, avec des grilles salariales et des budgets totalement différents, il fallait commencer à réfléchir sur les chiffres. Et là, ça a été vraiment extraordinaire parce qu'on n'était plus que des recruteurs terrain. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas juste de spotter des talents et de dire, voilà, moi, j'aime bien ce joueur. C'était, Romain, est-ce qu'on peut le faire? Financièrement. Et là, bah oui, parce que pour New York City, bon, on sait que le budget, c'est un camembert divisé en telle partie pour le DP, pour le Designated Player, et le reste, par exemple, c'est maximum 700 000 dollars par an. Donc, dans ce camembert-là, il nous faut un latéral droit, un défenseur central. Par contre, c'est la nécessité au niveau professionnel d'aller voir les divisions inférieures que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que je m'intéressais aussi à un nouveau type de joueur. Des joueurs qui n'étaient plus le niveau pour City, mais qui avaient le niveau pour aller jouer à Yokohama, à New York ou à Melbourne. Donc, ça m'a complètement multiplié le boulot par 5, et c'est là où on a recruté, où Man City a recruté mon collègue Georges Santos, qui est à l'OM dernièrement. Georges, et on a partagé le pays en deux. J'ai fait le nord, il a fait le sud, parce que c'était juste plus possible. Je pouvais pas aller voir Ligue 1, Ligue 2, National, toutes les CFA, plus comme je faisais avant. C'était pas possible. D'autant que j'avais toujours les prérogatives de l'académie.
C'est ça, ouais.
Donc voilà, ça devenait plus possible. J'allais tout seul, j'allais y passer. C'est plus possible. Donc Georges nous a rejoints, on s'est partagé le travail. Et nos réunions de travail aussi, c'était plus du tout pareil. Parce qu'on avait des panels, c'est-à-dire que les clubs anglais, je crois, United, c'est pareil, ils fonctionnent maintenant par panel de décision. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes avec le chef scout de l'académie qui va désigner plusieurs personnes en fonction des régions au niveau européen. Et tout est débattu au niveau des prises de décision de recrutement. C'est organisé comme une entreprise. Et c'est là où je te disais que l'état d'esprit anglais, moi, je préfère ça parce que avant que je sois recruteur, j'étais dans l'assurance et dans le commercial pour des grosses boîtes. Ce qui fait que moi, j'aimais bien tout ce qui était structuré, travailler avec, dans un certain ordre. Et je crois qu'en France, alors peut-être plus maintenant, dans certains clubs, comme j'ai envie de dire, ça fonctionne encore au bon vieux calepin. Et ça, moi, je pouvais pas. C'est-à-dire que quand on te demande quelque chose, une mission, c'est donne-moi le... Enfin, voilà, on avait des fichiers Excel à remplir, des données brutes à remplir. Donc, il faut quand même être copain avec l'ordinateur aussi. Hein.
Mais justement, tu vois, ça, c'est des choses que dans l'imaginaire collectif, on ne sait pas, en fait. On n'a pas ces données-là. On imagine tout de suite le scout comme quelqu'un qui est au bord du terrain avec son calepin, comme tu disais, et qui regarde, qui spot, qui détecte.
Alors, attention, ça, c'est la vision Citigroup, hein, dont je te parle.
Ouais, moi, bien sûr.
Le top du top de l'organisation d'un football mondialisé à plusieurs entités, d'accord ? À plusieurs clubs. Par contre, quand je suis passé justement au Watford du Dinez, pourtant, c'est différent. J'ai envie de dire, l'organisation était beaucoup moins rigoureuse. On faisait beaucoup moins appel à moi pour l'aspect économique. Ce n'était pas mon job. C'était Gino Pozzo qui gérait tout. D'accord ? Donc, tu vois, je suis revenu à un modèle où il fallait tout savoir, surtout au niveau des joueurs. Par contre, là encore, au niveau financier, on n'était pas obligé de savoir, savoir combien le joueur y gagne, si, mais après, on n'était plus du tout convié, j'ai envie de dire, à remplir des fichiers Excel sur la partie économique. C'est même moi qui leur amenais à un moment des tableaux. moi, j'y voyais, je travaillais comme ça, est-ce que ça peut vous aider ? Et ils avaient récupéré quelques idées à un moment. Donc voilà.
On a évoqué deux réalités très différentes,
il y a deux réalités, oui.
quelles sont les qualités d'un bon scout pour toi ? Est-ce qu'on peut séparer ça en deux blocs ? Tout ce qui concerne l'observation et la détection, ce que je disais avant, et tout ce qui concerne autre chose, c'est-à-dire le relationnel, les connaissances juridiques, les connaissances éventuellement économiques, selon ta réalité du terrain, tout ce qui n'est pas de l'observation des joueurs purement et simplement, en fait.
Tu me donnes deux blocs, je t'en donnerai trois, parce qu'il y en a un, je pense, je ne sais pas dans lequel mettre des deux, tu me diras. Le personnel, qui es-tu en tant que personne ? C'est le point de départ. Si tu es passionné ou pas, vu la dose de travail, le nombre de matchs qu'on doit se taper, etc., etc., si tu n'aimes pas ça, ou si tu n'es pas foncièrement fait comme ça, ça ne marchera pas. Par exemple, tout à l'heure, je voyais un article de Galtier qui dit « on est entraîneur ». Moi, je crois qu'on est recruteur. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut faire ce métier-là. Donc, pour en revenir à ta question, je dirais le gros bloc, pour moi, l'élément numéro un, ça serait la personnalité. Quand on est recruteur, il faut pas se laisser biaiser par l'environnement, pas se laisser influencer par les agents. Il faut avoir une forte personnalité et de la passion. Déjà, si tu as ça, tu peux après enchaîner sur l'aspect compétence. Donc, tu m'as dit tout à l'heure, il y avait le côté plus observation. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais voulu devenir coach et j'ai jamais passé trop de diplômes d'entraîneur. D'accord, j'ai appris, j'ai été dans un club professionnel, mais j'ai jamais ressenti ce besoin et même la nécessité quand les clubs anglais te recrutent d'avoir par exemple ton diplôme d'entraîneur. Voilà. Donc j'avais un peu peur de ça au départ parce que moi vraiment entraîneur c'est pas mon truc. Et je me suis dit s'ils demandent un diplôme type BE1, BE2, etc. Malheureusement je pourrais pas. Et c'est pas ce qu'ils regardent. Tu vois, donc on sort un peu de ce contexte entraîneur. C'est un vrai métier à part entière. Donc, pour l'aspect technique, bon, je savais déjà des choses. Et puis après, j'ai envie de dire, je me suis fait sur le tas aussi beaucoup. Hein. C'est en regardant beaucoup de matchs. Comme mon ami Yannick Gadel me disait au départ, il faut te faire ton œil, il faut que tu vois plein de matchs de différents niveaux. D'accord? Et après, bah, au contact des clubs anglais, il y a aussi beaucoup de réunions de travail où on échange, on apprend purement et simplement. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Man City, j'ai beaucoup, et je le remercie, j'ai beaucoup appris de John Gannon qui m'a recruté. Je me rappelle, mon test de recrutement, tu sais ce que c'était? Un jour, on est allé voir Bourgoin-Jallieu Auxerre en U17 national. Et il m'a dit, bah, écoute, bon, j'ai eu trois entretiens face à face, hein, avec la direction pour évaluer ma motivation, mais ça s'est fait sur, bah, viens avec moi, on va voir un match avec John. Et il me dit, à la fin du match, bon, c'était le U17 d'Auxerre, génération 95. Et il me dit, bon, maintenant, tu vas me donner une note à tous les joueurs, A, B, C, D. A, c'est je signe, B, c'est pas mal à suivre, C, c'est moyen, mais ça ira pas, et D, c'est complètement pas bon. D'accord? Ben, j'ai sorti, voilà, à brûle-pourpoint, j'ai dit lui B, lui C, lui D. Bon, après, il m'a pas dit si j'étais pris ou pas, mais je pense qu'il a fait son rapport plus tard en disant voilà. Donc voilà, il y a cet aspect observation où on peut pas tout savoir tout de suite. Souvent, moi, j'ai des recruteurs où j'ai maille à partir avec certaines personnes qui pensent qu'ils savent tout tout de suite et qui te posent des arguments parfois qui sont avec l'expérience. Toi, tu pensais ça quand tu avais 10 ans de moins, en fait. Et ça manque de recul sur l'aspect psychologique, notamment. Et tu dis, mais faut analyser les choses. Donc on ne se fait pas recruteur du jour au lendemain.
Mais ce qui revient d'ailleurs à une question, c'est en gros, il faut aussi donner la chance aux personnes. Alors, il faut une acquaintance quand même, enfin, des compétences dès le départ avec ce métier-là, mais il faut aussi donner la chance à des personnes qui gagneront en expérience et deviendront encore meilleures.
Exactement, et ça passe par quoi? Par faire des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs à Nottingham. Des joueurs qui n'ont pas réussi. Mon premier joueur, celui que j'ai amené, il aurait pu réussir. Le deuxième que j'ai amené, il n'a pas réussi, et pourtant, il le voulait à fond en U14. Toi, U14, U15, il est parti avec son papa là-bas, il a emménagé. Ils étaient super dingues de lui. En U15, il n'a pas progressé. Et moi, j'ai appris de ça. Je dis, mais attends, mais pourquoi il n'a pas progressé? Qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, mentalement, techniquement. Donc, il faut savoir se remettre en question. Je reviens au personnel encore. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Il faut être passionné, il faut avoir une personnalité, à rester solide sous la pression dans la décision, et là, une capacité de remise en question. Être capable de se dire, je me suis trompé, mais surtout de se dire pourquoi. Pourquoi je me suis trompé? Et pour ne pas faire deux fois la même erreur. Parce qu'au bout d'un moment, tu grilles tes jokers. Et par contre, les clubs, en France, il y a ce côté vraiment très élitiste où c'est très dur de dire j'ai fauté. D'accord? Donc moi, je suis arrivé avec ce caractère français où tout de suite, ils m'ont remis en place. Ils m'ont dit, Romain, t'inquiète, t'as pas la science infuse. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, il me dit, oh, mais t'as le droit de faire des erreurs, etc. Par contre, apprends de ça. Voilà, t'as du temps. Donc, en gros, moi je dis, je suis devenu opérationnel après 3 voire 4 ans d'expérience. J'ai pas peur de le dire, et il faut pas avoir peur de le dire, justement, pour tous les jeunes qui veulent devenir recruteurs demain. Les gars, vous avez le droit de faire des erreurs. Par contre, faut pas les multiplier.
Mais justement, c'est plus confortable d'arriver dans cet état d'esprit-là en te disant, je sais que c'est pas la première erreur qu'on va me couper la tête ou qu'on va me défoncer ou qu'on va
Alors,
me...
attention, on m'a pas prévenu, hein. C'est-à-dire, on m'a pas dit, Romain, tu as le droit de faire des erreurs. Je l'ai compris au moment où moi je les ai faites, parce que tout le monde avait validé la signature de Wilfried Nioré à Nottingham Forest. Tout le monde a été validé. Directeur du centre, il était super content. Il m'a dit Romain, merci, il m'a fait la bise. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit super, c'est cool. Mais quand ça ne marche pas, on m'a pas dit ah Romain, ça n'a pas marché, puisque tout le monde avait signé. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, moi, en tant que professionnel, tu dois te dire je suis payé par le club. Si j'ai fait une erreur, il faut absolument. C'est une espèce de, comme on dit, work ethic en anglais. C'est toi et ton éthique personnelle. Il faut que tu te remettes en question. Tu ne dises pas bah, c'est pas grave, ils m'ont pas engueulé. Tu vois? Mais non. Voilà, il y a des erreurs qui se sont vues sans arriver à cette étape-là. Par exemple, quand j'ai fait monter 2-3 joueurs à l'essai une fois à Manchester City, il y en a depuis qui ont réussi en professionnel, hein, mais qui n'avaient pas le niveau pour Man City, tu vois. Donc à un moment, tu te dis, et là tu discutes avec le directeur du centre de formation, il me dit, bon, bah, Romain, lui il est pas mal, mais il manque ça. Et là tu progresses. Tu travailles pas à Nottingham Forest comme tu travailles à Manchester City, donc ça il faut le comprendre. C'est plus le même œil, c'est plus la même exigence. Donc après, j'ai envie de dire, je suis monté en compétences, si on emploie des termes d'entreprise, des termes RH, je suis monté en compétences. Voilà, mais il m'a fallu essai, erreur, mais qui est valable pour tout dans la nature, hein, dans la nature humaine, et même en science, hein, c'est un principe de base.
Tout à l'heure, tu disais, c'est important de dire ça, le droit à l'erreur et le fait de se remettre en question, de devoir se remettre en question pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Est-ce que justement l'intérêt actuel pour le recrutement et le scouting, ça te surprend? On a le sentiment quand même que la popularité de ce métier-là est en train d'exploser. Je sais pas d'ailleurs.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'était une explication.
Je pense qu'il y a un côté, on est quand même... tu sais, c'est un peu comme devenir joueur professionnel. Je pense que tout le monde a envie de devenir joueur professionnel. Tu demandes à n'importe quel petit garçon, petite fille, aujourd'hui, petite fille, ah ben moi, je voudrais devenir Cristiano Ronaldo. Je crois qu'il y a une espèce de mythe autour du métier de recruteur et une grosse valorisation, enfin, moi, je le vois comme ça, personnelle, de dire, lui, je l'ai vu à 14 ans. Enfin, j'ai dit même, c'est l'essence de ma motivation. C'est de dire aujourd'hui, lui je l'ai vu, lui je l'ai pas vu, lui j'avais prévu que, tu vois. Il y a ce côté un petit peu druide, tu vois, de se dire, on a un savoir footballistique, mais plutôt puriste qu'économique, purement économique. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as des gens, faut pas se leurrer, ils vont venir dans le football pour la passion ou pour l'argent. Souvent, ceux qui viennent pour l'argent, ils vont devenir agents, ou, je dis pas tous, hein, parce qu'il y a des agents qui tiennent vraiment la route et qui aiment le football, qui ont été joueurs et autres. Mais il y en a qui vont être attirés par le gain, d'accord? Mais tu sais que quand tu viens pour être recruteur, t'es pas attiré par le gain, hein, parce qu'aujourd'hui, quand t'es recruteur, tu gagnes pas beaucoup, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu peux rapporter. Et je pense d'ailleurs que c'est une grande injustice du système.
Et tu penses qu'avec l'évolution du foot, ça peut changer ça? Parce que le fait de savoir détecter très tôt les jeunes talents devient et va devenir encore plus dans les années à venir important.
Bah écoute, j'avais pensé à un moment proposer mes services dans les clubs pour faire des évaluations de recrutement et surtout des dossiers qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, surtout pour développer les compétences, hein. Pas dans le but de couper des têtes ou quoi que ce soit. J'ai dit, le jour où je deviens responsable du recrutement, je vais instaurer un système d'évaluation des ressources humaines, c'est-à-dire des recruteurs, pour dire, bon, alors, entre quatre yeux, on fait des entretiens, comme en Angleterre, mais quelque chose d'encore plus spécifique, technique, j'ai envie de dire, parce qu'ils font des meetings annuels pour dire, voilà, donc ça, c'est bien, ça, c'est moins bien, tu sais. Voilà, mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Parce que comme tu dis aujourd'hui, surtout en France, les clubs, ils veulent gagner des sous, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent optimiser leurs investissements, ce qu'on appelle le return on investment, le ROI. Et pour ça, il faut absolument que les joueurs qu'on recrute soient valorisables. Donc, moi, je pense que ça a du sens. À un moment, j'avais cette idée de dire, ben, demain, si j'étais chef scout, pour pas couper des têtes, mais au moins trois fois par an, je fais une analyse des résultats, des rapports de match. Et puis après, alors... Les choses se voient dans le football sur 3 ans, j'ai envie de dire. Si tu travailles à l'académie, bon, t'as tous les ANS qui sont signés à 12 ans. Alors, t'as certaines catégories en France où ils vont pouvoir faire venir le joueur à 13 ans, d'accord? De 13 à 15, j'ai envie de dire.
ANS, c'est accord de non-sollicitation.
Accord de non-sollicitation. Donc, t'as certains clubs français qui peuvent faire venir un joueur à 13 ans parce qu'ils sont habilités par la fédération pour le faire. Donc, à ce titre, tu le fais venir. Mais j'ai envie de dire, ça se joue pas. Pour moi, on commence à voir les vérités vers 16 ans. Pour un joueur. C'est-à-dire qu'à 13, il peut se passer des choses, la marge de risque est très très élevée. D'ailleurs, je crois qu'au niveau fédéral, les statistiques de réussite pour les joueurs de 12 ans qui ont signé des ANS est très faible.
Mais tiens, je vais te donner un exemple sur cet âge de 16 ans justement. Un joueur dont on parle beaucoup aujourd'hui, Erling Haaland. J'avais discuté avec le responsable du recrutement de Molde, qui l'avait récupéré à Bjørnø, un club de D2 norvégienne. Et il m'avait raconté que les premiers mois d'Haaland à Molde étaient très compliqués. Parce que notamment, il avait, comme c'est logique à cet âge-là, à 15-16 ans, des problèmes de croissance. Et des problèmes de croissance qui lui ont donné beaucoup de blessures. Et en fait, on était passé en l'espace de un an et demi, 2 ans, de ce jeune de Bjørnø en deuxième division norvégienne. C'est un crack, c'est-à-dire que c'est essentiellement en Norvège qu'on l'avait vu, puisqu'à l'époque, je me souviens qu'il y avait que, c'est le mec de Molde qui me l'avait expliqué, il y avait que le FC Copenhague qui était venu sur le dossier pour le récupérer aussi. À 2 ans plus tard, bah, ce jeune-là, en fait, c'est peut-être pas le crack attendu parce qu'on le voit pas beaucoup jouer, il est souvent blessé, etc. Et c'est seulement après cette phase de croissance importante où il avait pris 13, 14 centimètres en l'espace de quelques mois, qu'il a pu se remettre au niveau physique, qu'il n'avait plus de blessures, qu'il a pu jouer, etc.
Exactement, et je pense qu'il y a une remise en question technique aussi, parce que je crois que son coach à l'époque en Norvège avait spoté qu'il faisait des choses qu'il ne savait pas faire avec le ballon. Il essayait de faire des choses qu'il ne savait pas faire, donc il avait réorienté un petit peu aussi.
C'était Ole Gunnar Solskjaer, il avait beaucoup bossé avec lui notamment.
Oui, c'était Ole qui était à Molde, mais juste avant, je crois que quand il était vraiment jeune, voilà. Mais tu sais que son papa était pro à Man City, hein. D'ailleurs, c'était la célèbre affaire de la jambe
avec
de Roy Keane, laissée par Roy Keane. Mais oui, voilà, donc la vérité, on l'a pas, tout n'est pas toujours linéaire dans le recrutement. Par contre, il faut toujours faire attention à quel est le contexte autour du joueur. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi il ne joue pas ? Ah, il est blessé. Pourquoi il est blessé ? Pour telle et telle raison. Et après, on regarde ce qui se passe sur le terrain, mais c'est ce qui fait aussi, je pense, sa fraîcheur. Aujourd'hui, quand on voit Haaland, c'était pas comme on dit, l'histoire de Zlatan Ibrahimovic, mais c'est exactement ça. Ils étaient sur un autre joueur de son club, qui était soi-disant la star à venir. Il est passé sous les radars, Zlatan. Il est allé à l'Ajax parce qu'ils ont vu d'autres qualités, ce retard aussi morphologique chez lui. Quand on voit le joueur que c'est aujourd'hui, et l'autre avait disparu complètement des écrans radar juste à l'âge de 21 ou 22 ans, qui était le joueur que tout le monde voulait. Donc voilà, il faut être très 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 prudent, et je pense même aujourd'hui avec les générations qui arrivent, être encore plus prudent parce que l'aspect psychologique joue encore un rôle. Mais pour revenir à ta question du départ, dans l'évaluation des joueurs, aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entreprises comme Ginkeo par exemple, qui ont des systèmes intégrés d'évaluation des joueurs dès l'entraînement, parce qu'ils ont compris qu'on pouvait valoriser un joueur aujourd'hui dès l'âge de 16 ans. Économiquement, je parle. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le football étant devenu un marché, certaines entreprises ou certains clubs ont compris qu'il fallait absolument, comme je dis, améliorer le return on investment, améliorer l'actif immobilisé, puisque les contrats de joueurs sont des actifs immobilisés, à partir de là, mettre en place des techniques ou des méthodes qui puissent permettre justement de mettre en avant l'aspect économique pour justement faire en sorte que le club puisse les valoriser peut-être plus que ce qu'ils étaient avant. Je prends un exemple tout bête, Wesley Fofana, quand il est en U19 à Saint-Etienne et qu'il ne joue pas encore en pro, c'est un joueur, je pense, que s'il est bien évalué chaque jour à l'entraînement par rapport à tout ce qui tourne autour d'un joueur, hein, hygiène de vie, en dehors du terrain, techniquement, mentalement, etc. Parce que c'est des jeunes souvent qui commencent à s'entraîner avec les pros. Bah, si tu fais un feedback de tous les entraîneurs autour, bah, tu peux commencer déjà, entre guillemets, à lui mettre un prix. C'est-à-dire que c'est pas 300 000 euros, c'est pas les indemnités de formation, c'est peut-être un million et demi, tu vois. Et là, ça commence à arriver en France, tout doucement, à travers des prestataires spécialisés. Mais il faut aussi qu'au niveau recrutement, je pense, alors peut-être que ça existe déjà, hein, je ne sais pas, il faudrait que je demande à certains chefs scouts d'académie de Ligue 1 s'ils le font, mais de pouvoir évaluer les recruteurs et de voir si à terme, sur 3 ans, la personne était, j'ai envie de dire, productive, si elle travaille bien, si elle ne travaille pas bien, pourquoi, comment aider, etc., etc. Je pense qu'on tend vers une professionnalisation encore plus accrue et encore plus avec l'intelligence artificielle et les nouveaux logiciels d'analyse vidéo qui arrivent.
Justement, on a beaucoup parlé de l'importance d'avoir un œil, de se faire son œil. Quelle place tu accordes aujourd'hui à toute cette technologie, l'intelligence artificielle, la data, les plateformes vidéo, etc. dans ton travail les derniers mois à United? Alors évidemment, là, c'est délicat pour les très jeunes joueurs parce que c'est pas développé pour ces catégories d'âge-là. Mais est-ce que tous ces outils-là te sont d'une grande aide au quotidien?
Alors moi, je perçois, il y en a beaucoup maintenant. Et attention, là, par exemple, il y a Skisport qui s'est marié avec Instat, qui est une plateforme assez connue. Ils ont sorti un produit vraiment très élaboré. Par contre, je discute souvent avec eux, avec Skisport, et je leur ai toujours dit, ça doit rester comme une canne à un aveugle ou un chien à un aveugle. C'est-à-dire que demain, l'œil humain ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que cumuler une expérience de vécu humain, connaître un joueur, connaître ses travers, connaître ses passions, etc., c'est un avantage que la machine ne peut pas entrer en compte dans une évaluation. Par contre, aujourd'hui, c'est très intéressant pour les données athlétiques, par exemple, pour notamment la répétition des efforts à haute intensité, puisque le football moderne aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est un football de plus en plus rapide, avec de moins en moins de passes, qui va de plus en plus vers l'avant. C'est véridique, hein, ça c'est tous les rapports du monde des championnats d'Europe. Donc il faut des athlètes et ça, par exemple, l'intelligence artificielle est en mesure de donner des données très intéressantes sur ces paramètres-là. Le nombre de, bien entendu, de passes effectuées. Alors après, il faut faire attention parce que souvent les joueurs eux-mêmes ils tombent là-dedans. Hein, c'est-à-dire que demain, si j'ai pas fait mes 90% de passes réussies, j'aurais pas une bonne note dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pas non plus que les joueurs ils tombent là-dedans, parce que faire une passe pour faire une passe, nous les observateurs, on est capable de le voir et de l'évaluer. Mais la facilité, les zones de confort. Mais ce que je veux dire, non, c'est plus comme un accompagnateur, un bon soldat qui sera à côté de nous pour nous apporter un contexte différent, plus tangible.
Sachant aussi que la statistique n'est pas totalement infaillible non plus, en fait.
Enfin, je pense que les statistiques et l'intelligence artificielle sont là pour nous apporter un point de vue différent. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, lorsque vous avez des statistiques, vous étudiez le profil d'un attaquant de pointe qu'on appelle target man, c'est-à-dire le point de fixation. On va analyser certains points précis comme le jeu aérien. Et il se peut que de temps en temps, lorsqu'on consulte les statistiques, on a par exemple 60% de duels gagnés, alors que bah, pendant le match, on en constate 80. Et après, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est 80. Pourquoi ? Parce que le duel aérien n'a pas été perçu de la même manière par l'algorithme ou par l'analyse informatique. Nous, on va détecter des points comme le timing, déjà quel adversaire est en face de lui. Si vous avez affaire à Van Dijk, vous n'avez peut-être pas affaire à d'autres défenseurs un petit peu moins costauds, un petit peu moins grands. Donc, ce qui fait que c'est normal que le joueur gagne plus de duels dans ce contexte-là. Ces éléments-là sont peut-être pas forcément pris en compte par la statistique et l'intelligence artificielle. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet de générer un débat et une curiosité. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça permet au scout d'aller encore plus profondément dans son analyse et de, là encore, se remettre en question comme il faut, en se disant, OK, l'intelligence artificielle me donne ce pourcentage-là de duels gagnés, moi j'en ai constaté un tel, voilà, on va les vérifier via la vidéo, et puis apporter le correctif nécessaire. Mais je pense qu'en règle générale, on est plus encore sur des statistiques qui sont pas vraiment exactes. Je vois aussi, par exemple, sur les duels au sol, parfois on va juger des duels gagnés alors que le duel n'est pas vraiment gagné, ou à moitié gagné, ou... on s'aperçoit que le ballon n'a pas été récupéré, ou le tacle, par exemple, n'a pas été fait pour que le ballon soit récupéré par un coéquipier, mais plus soit de manière aléatoire ou soit récupéré par l'adversaire, ce qui fait qu'on peut pas considérer le duel, pour moi, comme réussi. Si un tacle est bien réalisé, quand on essaye de garder, par exemple, la possession de balle. Or, ça, l'algorithme ne pourra pas l'interpréter ou ne va pas le voir.
Et justement, toi, tu es toujours parti de l'œil pour être accompagné par la data. Il n'y a jamais un moment où tu as découvert un joueur à travers la data par je ne sais quelle manipulation. Et après, tu t'es dit, bah, tiens, je vais m'intéresser un peu à lui et regarder parce qu'il ressort statistiquement très fort.
Ça sera juste un groupe de joueurs, pas un joueur spécialement dire ou lui, parce que la data me l'a donné, je vais le signer. Il y aura toujours une observation. Tu peux choisir des caractéristiques sur certains logiciels, voilà, Install, 3Scout, tu dis voilà, Skisport, je voudrais tel joueur entre tel âge et tel âge, tel montant de transfert, avec telle année de contrat, qui joue ce poste et qui ressemble, je sais pas moi, à Oussem Aouar. Il va te sortir une liste de 10 joueurs, et après tu vas travailler ces 10 joueurs. Mais jamais ça sera une machine qui va dire... parce que ça marche, je pense, à un certain niveau, mais après on est dans un contexte économique où après le talent s'achète, et la machine va te dire, ah bah oui, mais si tu veux joueur, c'est Oussem Aouar, il coûte tant. Ah, mais je peux pas. Ah bah, je suis obligé de trouver un autre joueur. Ouais, mais il va être moins bon. Ah ouais, donc je suis condamné peut-être à rester qu'à ce niveau-là. Donc toi, la machine, ça va jusqu'à un moment. Après, tu es condamné aussi parce qu'il y a autour le contexte économique, contexte juridique. Donc voilà.
Tu as une chose que la machine, pour l'instant, ne peut pas évaluer, c'est toutes les prédispositions psychologiques, mentales.
Exactement. Vous allez voir les réseaux sociaux, voir ce que le joueur fait, le langage corporel, les motivations intrinsèques, extrinsèques. Bon, après, tu peux l'évaluer par rapport au nombre de courses, à haute intensité, tu vois. Mais quand même, voir quel est le comportement de l'interaction avec les coéquipiers, comment il se comporte, est-ce qu'il râle, est-ce qu'il râle pas, est-ce qu'il est timide.
Voilà comment il gère la frustration.
Voilà, mais j'ai envie de dire, après, il y a la qualité de première touche de balle. C'est pas tout de dire, le joueur, il a une super première touche de balle. Aujourd'hui, techniquement, tu peux voir une élégance chez le joueur qui te donne des éléments complémentaires qu'une statistique ne pourra pas te donner. Une certaine coordination, une certaine proprioception qu'une machine ne pourra pas te dire encore. Mais bon, les prestataires se donnent bien du mal aujourd'hui pour aller toujours plus loin. Je crois qu'à Toulouse, ça travaille beaucoup aussi. Je crois que Damien Comoli est fan de stats et il travaille aussi un peu comme ça. Donc voilà, toutes les techniques se défendent. S'il le fait, c'est qu'il a trouvé un intérêt.
Tu as observé des jeunes joueurs qui ont été recrutés du coup pour la formation, d'autres directement pour l'équipe première. Et je me disais que entre des jeunes joueurs recrutés pour la formation et des joueurs recrutés pour l'équipe première, par exemple, entre Thierry Ambrose que tu recrutes pour l'académie et Samir Nasri que tu recrutes pour l'équipe première, c'est quasiment deux domaines totalement différents. C'est-à-dire que tu ne regardes pas le joueur de la même manière, parce que d'un côté, tu, entre guillemets, achètes un potentiel, alors que de l'autre côté, tu achètes quelque chose de concret.
Exactement, avec une valeur de marché qui est totalement différente, une valeur d'achat qui est totalement différente. Là encore, le recruteur s'adapte aux besoins du club et surtout à l'ADN du club. C'est-à-dire qu'il faut des joueurs qui puissent aussi rentrer dans ce moule-là. Aujourd'hui, pour Pep Guardiola, je sais ce qu'il aime. Quel type de joueur il a besoin et ce qu'il aime. Il veut des joueurs intelligents, techniques, avant tout. L'aspect athlétique, oui, il est important, peut-être sur certains postes plus que d'autres, mais c'est, voilà, lui, c'est la possession de balle. Quand tu vas à Manchester United, c'est plus sur de la contre-attaque. des actions directes, des attaques directes en profondeur. Donc, on a besoin de joueurs qui soient capables de répéter les efforts ou de partir en droit, tu vois. Donc, nous, le scout doit avant tout s'adapter à ça, avant et même pour l'académie. Hein.
Si on regarde d'un point de vue plus générique, qu'est-ce que tu regardes en priorité chez un jeune joueur pour évaluer son potentiel ?
S'il correspond, comme je viens de le dire, à l'ADN du club, c'est-à-dire c'est le profil qui correspond au club, parce que sinon tu perds beaucoup de temps. Tu peux avoir un joueur qui est très talentueux, mais tu sais qu'il ne se fondra pas dans le système de jeu ou dans ce que veut le club. Après, j'ai envie de dire, c'est dur à expliquer, mais c'est le meilleur quoi, en fait. Hein. C'est la rapidité d'exécution. Moi, je travaillais pas mal en m'inspirant de la méthode de l'Ajax. Je suis très très fan de ce club. La méthode TIPS qui a été améliorée maintenant, hein, technique et inside speed personality. Bon, en Angleterre, il faut rajouter quand même l'aspect athlétique parce qu'on n'est pas dans un championnat comme le championnat de Hollande. Et puis, on n'est pas tous des joueurs de l'Ajax. Mais je crois que d'un point de vue global, c'est intéressant d'utiliser cette méthode-là parce que ça te disait beaucoup sur le joueur. Donc, quand tu observes un joueur, tu regardes tous ses paramètres, tu les analyses, tu les filtres et tu te dis après, maintenant, c'est un bon joueur qui me semble complet. Est-ce qu'il a ce qu'il faut ? Du moins, qu'il y a des qualités, un X-facteur peut-être, c'est-à-dire son X-facteur, il est athlétique, son X-facteur, il est technique, ou il est les deux, auquel cas, tu commences vraiment à t'intéresser au joueur. Par exemple, Kingsley Coman, Benjamin Mendy, que j'ai fait venir à l'époque la famille de Benjamin Mendy à Man City quand il avait 15 ans, avant qu'il signe son contrat pro au Havre. Ironie du sort, il signe 5 ans après pour 54 millions de Manchester City. Ça, c'est Kingsley Coman, c'est des joueurs où j'ai perçu chez eux, j'ai fait une analyse globale du joueur, et on s'aperçoit que c'est des joueurs qui cochent des cases, du moins suffisamment de cases pour se dire il peut jouer à City, et en plus de ça, il va devenir un joueur d'équipe de France. Ça, on arrive quand même avec de l'expérience, encore une fois, avec des essais-erreurs, avec un effet d'expérience, on arrive à se dire, lui ou là, il va aller tout là-haut. Il y a de fortes chances qu'il aille tout là-haut.
Rappelle-nous l'acronyme de la technique de l'Ajax.
C'est le TIPS, Technique Insight Personality Speed. Ils ont rajouté depuis, je crois qu'il est amélioré. Et honte à moi, je crois qu'il y a 6 points, 5 ou 6 points. 5 points, je ne sais plus. Il était amélioré depuis. Ça, c'était l'époque du Grand Ajax, 95, où tu avais toute l'équipe qui venait du centre de formation. C'était formidable. J'adore ce club.
Tu as très bon goût. Entre les deux Manchester, tu fais, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, un passage à Watford Udinese, puisque c'est la famille Pozzo qui a les deux clubs. Est-ce que là, contrairement à City ou United, où ça ne rentre pas directement en ligne de compte, ou en tout cas, ce n'est pas une des choses principales qu'on te demande, tu as clairement eu une demande d'adaptation de ton travail dans une logique de trading. Parce qu'on sait qu'ils sont très forts là-dedans, qu'ils recrutent des joueurs méconnus pour les revendre ensuite plus cher. Et c'est un monde qui est totalement différent de City et d'United.
Bah, le travail a été, là encore, hein, tu parles d'un ADN, hein, ADN de recrutement, ADN de club, où le club est fait pour faire de l'achat-revente. Oui, dès le départ, c'est-à-dire que dans ce qu'on m'a demandé, c'était de cibler du 17-21, des joueurs entre 17 et 21 ans qui correspondent à tel niveau et qui coûtent tel prix. Donc, qu'ils ne soient pas suivis par Man United, Man City, tous les gros clubs, qui sont entre les deux, mais ils s'accordent cette marge d'erreur. C'est du 50-50, hein. Ils ont toujours dit, ils ne se sont jamais cachés, on prend un risque, parfois à parier sur un joueur. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ils n'en feront pas une maladie. Voilà, mais c'est ciblé dès le départ. C'est-à-dire, il faut sortir quand même une shortlist de 10 noms quasiment à tous les postes en disant voilà, il faut qu'on aille sur lui, 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 lui et lui. Et après, c'est débattu en réunion avec tous les collègues qui travaillent en Amérique du Sud, dans les Balkans, etc., où on compare les profils.
Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait venir Benjamin Mendy et sa famille et Kingsley Coman aussi.
Benjamin n'était pas monté, c'était son frère.
Ah, d'accord, ok.
Son beau-frère qui était monté. Ouais.
Avec ton expérience de 10 ans en première ligue, qu'est-ce que les clubs anglais et leurs dirigeants aiment chez les joueurs français ? Jeune ou confirmé d'ailleurs, parce que, alors joueur français ou joueur de Ligue 1, on va élargir un petit peu, parce que t'as les deux cas, t'as les jeunes français qui sont partis très tôt, et on l'a dit tout à l'heure, on a cité plusieurs cas, qui sont partis très tôt, parfois peut-être trop tôt, dans des grands clubs anglais, et puis on a aussi des joueurs de Ligue 1 qui, une fois qu'ils ont fait une bonne saison, parfois 6 mois, parfois une bonne saison, parfois 2 bonnes saisons en Ligue 1, partent vers la première ligue, et on a un flux en fait entre Ligue 1 et Première Ligue, qui est constant, qui est important, qui est très diffus. Toi, avec ton regard, ton expérience, avec tes discussions, avec tes supérieurs, etc., qu'est-ce qui leur plaît chez ces joueurs-là ?
Alors, ce qui est évident, c'est que la France est un réservoir de talents quasiment unique en Europe. C'est l'équivalent presque du Brésil. Ça peut être considéré comme un vivier extraordinaire. Pourquoi ? Parce que multiculturel. Tu trouves des joueurs de tout type en France. Alors après, ce qui fait la spécificité pour les Anglais, c'est une antichambre parfaite. Puisque d'un, le prix des joueurs compétitifs, des profils de joueurs très souvent athlétiques, qui peuvent s'adapter au rythme de soit de la Championship, soit de la Premier League. Un package de formation qui est très performant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fédération française de foot forme très très bien, les clubs pro forment très très bien, des joueurs plutôt complets. Ça coche déjà toutes ces cases, un peu la Belgique aussi, il y a beaucoup de joueurs belges hein, qui sont en Angleterre, c'est un football aussi très dynamique. C'est ça qui plaît au club anglais. Après, peut-être là où justement il y a une amélioration, parce que bon, on va dire Pogba a réussi en Angleterre en arrivant à 16 ans, hein, donc voilà. Mais c'est le côté psychologique. Et c'est peut-être ça après qui fait défaut pour qu'il y ait plus d'éclosion. Quand on arrive en Angleterre, on s'entraîne comme on joue. Il faut tout donner tout le temps, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut se coucher le soir, il faut respecter les règles, etc. etc., etc. Donc, ce qui fait beaucoup de contraintes, et surtout, on est parmi les meilleurs, parce que souvent, les meilleurs jeunes montent très vite avec les pros, et la Première Ligue est un des meilleurs championnats au monde. Donc, la compétition, le niveau est très, très, très élevé. C'est pour ça que mentalement, il faut aussi pouvoir l'accepter, ça. C'est ce qui fait qu'à un moment, les clubs anglais sont très, très gourmands des joueurs français. Mais j'ai envie de dire, pour ceux qui étaient un peu moins armés psychologiquement, ça a été un échec. Voilà pourquoi il y a aussi des échecs. Après, ceux qui arrivent plus tard en post-formation, justement, après s'être fait une expérience, arrivent armés, quoi. Et là, les taux de réussite sont beaucoup plus élevés. Voilà, donc c'est un bon package, la France, en termes de choix de joueurs, de compétences, hein, j'ai envie de dire, pour employer des termes, des compétences globales, le niveau, l'éducation footballistique est très bonne. On trouve de tout, tous les profils, du Riyad Mahrez jusqu'à Kurt Zouma, en passant par Hugo Lloris, en allant jusqu'à Edouard Mendy, on trouve de tout.
Est-ce que le Brexit, et oui, c'est une donnée très très importante, mine de rien, bah du coup ça change, j'imagine, l'approche des grands clubs anglais aussi sur le territoire français. Alors, parce que là on parlait du territoire français, hein, mais c'est sur tous les territoires. Est-ce que les clubs anglais vont réorienter un peu leur recherche sur le territoire français, ou est-ce qu'ils vont essayer de garder, tu vois, une espèce de contact, montrer qu'ils sont là pour essayer de faire patienter ces jeunes-là pour les récupérer quand ils auront le droit de les récupérer, en fait. Tu vois, comment s'adapter quand tu ne peux plus recruter en dessous d'un certain âge, mais qu'en même temps, tu dis, si je rate un Kylian Mbappé demain, ça m'ennuiera.
Il y a quand même possibilité de recruter des 18-21.
Ouais, mais avant 18, tu peux pas, du coup.
Avant, tu peux pas, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que la règle va se faire par l'argent. Encore une fois, il y a l'attractivité du championnat. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Brexit? Donc, au départ, il y a des raisons géopolitiques, hein, c'est-à-dire on sort de l'Union européenne. Les conséquences, c'est donc qu'on recrute à partir de 18 ans. Mais est-ce que c'est une opportunité pour le football? C'est une super opportunité pour le club anglais, parce que les règles mêmes du Brexit ont été faites « tailor-made hein, », comme on dit en anglais, c'est-à-dire mais découpées pour eux. Ça a été fait par eux, pour eux, c'est-à-dire parce qu'ils veulent rester le championnat majeur européen économiquement et footballistiquement. Enfin bon, footballistiquement, on peut en discuter avec la Liga, si on aime plus les Espagnols que les Anglais, mais ça a été fait par eux, pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aussi aperçus qu'il y avait eu du déchet énormément pour les plus jeunes joueurs qui venaient de France, de Belgique ou d'ailleurs. Donc eux, ils se disent aujourd'hui, on ne va plus dépenser, c'est génial, on ne va plus dépenser d'argent dans des contrats de joueurs à partir de 16 ans, on va les prendre quasiment à 18 ans, c'est-à-dire quand on a des certitudes que le niveau est là, d'accord, moins de prise de risque. On a le droit d'en prendre 3 par mercato, ce qui en fait 6 au total sur une année par club, pour ceux qui, bien sûr, atteignent les 15 points. Donc, c'est souvent des jeunes internationaux, donc des joueurs qualitatifs ou parmi les meilleurs. Mais après, quand c'est la bataille de l'argent, c'est pas grave, ils en ont de l'argent.
C'est dans le cas où le jeune n'est pas déjà spoté par un autre grand club d'un autre championnat. Il faut accepter, par exemple, que peut-être qu'un Pogba, aujourd'hui, se destinerait à aller vers, je sais pas, le Bayern Munich, par exemple, et que derrière, tu fais une croix sur ce joueur-là. Parce qu'à 18 ans, il sera au Bayern.
J'ai envie de dire, t'es exactement sur le même marché que les Mbappé et les Cristiano. Chacun sa chance. Qui aura la signature d'un tel? Et ça se fait soit par l'intérêt vers le club, soit par le chéquier, soit par d'autres biens. Mais là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce système a été fait pour une compétition des hauts talents. Et comme ceux qui ont les clés du coffre et dans un contexte Covid, ils savent que quasiment tous les championnats ne peuvent pas recruter comme eux, mais ils vont profiter à mort. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau européen, c'est l'Allemagne qui va être gagnante pour aller chercher des joueurs de moins de 18 ans. D'accord, parce qu'ils ont ce système assez déjà rodé, la réputation de la post-formation, etc., etc. Ils vont se substituer aux Anglais, peut-être, entre les 16 et 18 ans, mais ça ne veut pas dire que tous les joueurs vont aller en Allemagne aussi. Si tu pars pour aller à Mönchengladbach, à Cologne, moi, j'ai rien contre ces clubs-là, mais après, il y a des joueurs qui vont dire « Ouais, mais moi, mon rêve, c'est l'Angleterre. »
Non, mais après, si tu vas à Gladbach ou à Cologne, quoi qu'il arrive, tes gros clubs anglais pourront aller les récupérer. Parce que c'est pas des clubs qui peuvent lutter financièrement. Là, je prenais l'exemple, par exemple, d'un Pogba. Si, à 16 ans, il quittait le Havre pour aller au Bayern, derrière, le club anglais, il aura beaucoup de mal à le récupérer. Parce qu'une fois que tu es au Bayern, si tu as du temps de jeu, etc., le prix, ça ne va pas être le même.
Ce n'est pas faux. Comme je te dis, je prévois qu'il y ait une exode du côté allemand. Mais est-ce que ça va être la super exode ? Reste à voir, parce que ce n'est pas non plus aujourd'hui tout le monde qui réussit. Hein. Il y a quelques cas, notamment chez les jeunes, où voilà, on attend encore des jeunes sortir. Hein, à Dortmund, récemment à Hoffenheim. Ben voilà, ce n'est pas non plus... Il y a une mentalité, mais bon, c'est quand même... voilà, il faut s'y habituer. C'est aussi une exigence à l'entraînement en Allemagne, un peu comme en Angleterre.
Du coup, pour résumer, tu as moins de prise de risque de la part des clubs anglais, mais ils acceptent aussi que parfois, il y a un talent qui puisse totalement leur échapper, avant 18 ans.
Moi, je pense que les Anglais sont très libéraux. Vous savez, c'est un peu la main invisible. Hein. C'est Adam Smith. Hein. C'est-à-dire que demain, c'est la loi du marché qui va gérer. Et on oublie un gros paramètre, c'est que c'est hyper favorable pour leur sélection nationale. Ils gagnent de tous les côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui avant ne sortaient pas parce qu'on faisait venir des joueurs français à 16 ans, ils vont pouvoir sortir. Donc, ils vont avoir un afflux au sud aussi de joueurs formés localement, anglais, qui vont venir alimenter les sélections anglaises. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu plus de temps de jeu ou plus de chances de se montrer. C'est pour ça que je te dis, ça a été fait par eux, pour eux, mais à tous les niveaux, que ce soit dans leur football national ou dans leur championnat. Voilà. Mais c'est vrai, tu as raison sur le principe que le Bayern de Munich peut devenir totalement agressif, mais non, sur des joueurs de 16 ans. Mais jusque-là, le recrutement du Bayern, il n'y a pas trop eu de joueurs de moins de 16 ans hors Allemagne. Mais bon, ça pourrait être une tendance qui arrive. Dortmund a plus cette culture, je pense.
C'est vrai. Mais par contre, Dortmund, si t'es City ou United, tu peux les attaquer. Une fois qu'il a explosé, tu peux les attaquer.
Dis-toi bien qu'à un moment, c'est une question d'argent. Et ça, les Anglais, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est-à-dire que s'il faut payer, il y aura une loi du marché. Alors ça créera peut-être... Là où ils sont bons, c'est que s'ils se disent sur les profils encore à haut potentiel, qui va pouvoir payer ? Toujours les mêmes, Barça, Real, Chelsea, City, majoritairement, ou Bayern, majoritairement des clubs anglais. Hein. Donc au final, statistiquement, eux, payer, ce n'est pas un problème, ils ont de l'argent. Donc ils ne sont pas choqués par cette méthode. On va y aller, on va proposer nos arguments, on va essayer de signer le joueur.
Un autre élément peut-être à prendre en compte pour expliquer un peu le Brexit, les enjeux du Brexit, c'est les parades que peuvent trouver les clubs anglais. Et parmi ces parades, on en parlait un petit peu en off avant de commencer l'enregistrement, il y a le fait d'investir sur le marché français, mais pas investir sur les joueurs cette fois-ci, investir dans des structures, et on peut en parler avec le City Football Group et 3, ou avec Sheffield United et Châteauroux. L'idée derrière ça, c'est quoi, Romain ?
Bah, tu as pris les deux exemples majeurs sur lesquels on peut discuter de cette stratégie. Citigroup a vu bien avant tout le monde, je crois, l'aspect mondialisé du football. Alors le Brexit, je sais pas, ça veut dire qu'ils ont eu une boule de cristal. Mais en tout cas, leur décision d'acquisition du club de Troyes colle parfaitement, encore une fois, pour pouvoir développer une stratégie de recrutement sur des jeunes joueurs encore en deçà de 18 ans. Pourquoi ? Parce que c'est ni plus ni moins que de préparer un recrutement. On a parlé des Aïnes tout à l'heure et des joueurs de moins de 13 ans, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le club de Troyes peut être totalement, si son centre de formation, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, est en catégorie 1, ça pourrait permettre à terme Citigroup de pouvoir mettre la main sur des talents âgés de 13 ans, ni plus ni moins. Donc ça veut dire avoir un avantage concurrentiel et compétitif par rapport à d'autres clubs qui n'ont pas de club partenaire dans le pays, donc ne peuvent pas faire venir des joueurs plus tôt, notamment ceux considérés comme les talents de demain. Donc, en plus des arguments que j'ai pu développer en amont concernant cela, je pense que dans la stratégie et dans les stratégies post-Brexit, le fait de prendre un club partenaire en France, d'autant que deuxième division notamment, parce que le prix des clubs est quand même faible par rapport au marché en Europe, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre guillemets qualité compétitivité qui est vraiment très attractif pour des clubs de première ligue, c'est-à-dire pouvoir récupérer des talents à un niveau suffisant leur permettant de travailler dans un cadre qualitatif comme je l'ai expliqué avant, avec un package formation qui est vraiment d'un excellent rapport qualité-coût, de pouvoir tirer les bénéfices et les fruits de ces investissements. Donc encore, c'est pas tous les clubs anglais qui demain ont des clubs partenaires, mais par exemple, on a vu Chelsea travailler avec le Vitesse Arnhem en prêtant énormément de jeunes joueurs. Citigroup encore en Hollande, maintenant en Belgique. J'ai entendu récemment à Vannes, donc encore en France, commencer à à continuer à investir dans des clubs sur le Big Five ou Big Five un peu plus, c'est-à-dire marché hollandais qui ne fait pas partie du Big Five, mais qui arrive juste après le Portugal, par exemple, où on a un niveau de jeu suffisant qui puisse permettre de proposer une formation intéressante. Voilà, ça, je pense que c'est un élément supplémentaire, mais il est encore dévoué à certains clubs et pas à tous les clubs anglais. C'est-à-dire que demain, je pense que Sheffield peut se permettre de le faire parce qu'ils ont un fonds saoudien, un investisseur derrière qui a vraiment les moyens de pouvoir faire cela. Si demain on me disait, je sais pas, ou peut-être c'est pas encore venu aux oreilles ou d'un West Ham ou peut-être de clubs comme Aston Villa, on n'a jamais entendu ce type de club anglais vouloir venir investir. Donc je pense que c'est encore une chasse gardée de groupes avec suffisamment de moyens financiers pour investir sur ce type de stratégie élargie, mais ça reste quand même un tenant supplémentaire pour permettre à certains clubs de Première Ligue d'avoir un accès privilégié, comme tu disais tout à l'heure. Un Pogba partir au Bayern de Munich à 16 ans, et ben peut-être que City aujourd'hui pourrait dire, si demain 3 atteint la Ligue 1 avec un niveau suffisant de compétitivité, de dire à Paul Pogba, écoute, ce que nous proposons, c'est de signer à 3 pendant un an ou deux avant de venir à Manchester City. Et là, pour le coup, ça serait une acquisition à moindre frais, puisque en contrôlant le club français, on contrôle aussi, j'ai envie de dire, le montant du transfert. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un autre moyen de voir
Les choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as quitté ton poste à United en décembre 2020. Et aujourd'hui, à côté et à temps plein en même temps, tu vas nous expliquer un peu ta situation. Tu t'occupes notamment d'une association que tu as créée qui s'appelle Steph Cares. Association très importante à tes yeux parce qu'il y a une histoire très personnelle derrière cet engagement qui lutte contre l'usage du téléphone au volant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors oui, je vais donner déjà quelques éléments par rapport à l'histoire très rapidement parce que c'est toujours un sujet très sensible. J'ai perdu donc mon ex-femme et mon petit garçon de 4 ans et demi dans un accident de la route justement à côté de Bourgoin-Jallieu, à l'île d'Abo, en avril 2019. C'était un accident qui était lié à l'utilisation du téléphone au volant. Perdre ses proches dans un accident lié à ça, c'était très très difficilement acceptable parce qu'aujourd'hui, une vie ne vaut pas un texto ou un email. D'accord. Moi-même, j'ai failli passer, justement, en allant à Clairefontaine, je crois que c'était en 2012, j'allais voir un match de l'équipe de France U18, un match amical, et pareil, j'ai textoté, j'ai failli passer sous un bus, et j'ai eu de la chance. Donc voilà, malheureusement, 10 ans plus tard, c'est ma femme et mon petit garçon qui trouvent la mort sur les routes. Avec ma sœur, on a décidé donc de créer Steph Cares en réponse immédiate à la souffrance qu'on pouvait avoir de la perte de nos proches. Et l'objectif donc de cette association, c'est de sensibiliser le plus largement possible au risque du téléphone au volant. Donc on a mis en place des actions. Donc dernièrement, on était à Châteauroux, où on a mis en place un atelier technique dont on a été aidé dans sa conception, notamment par Eric Mombert, qui est un coach que j'avais fait venir à l'époque à Manchester City, pour aller entraîner à Yokohama Marinos.
Et justement, je me permets de te couper, puisque moi j'ai vu la vidéo que vous avez montée ensuite de cette journée à l'Aberration de Châteauroux, et j'ai trouvé ça excellent, tu vois, l'atelier que vous avez fait, parce que c'est une phrase que je répète quasiment dans tous mes podcasts, donc les gens en auront peut-être marre, mais il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple lui-même. Parce qu'on peut toujours projeter des diapos dans une salle, une vidéo, etc. Mais en fait, alors c'est pas on les met pas dans la condition de textoter au volant. Tu vas nous dire justement l'atelier que vous avez fait, qui était très bon.
Au départ, vous voulez, par exemple, on pensait faire appel à des simulateurs de conduite pour pouvoir mettre les jeunes dans un contexte qu'ils connaissent, c'est-à-dire la console ou une espèce de jeu vidéo. Mais on s'est dit que ça servait à rien parce que le jour où ils vont être au volant, ils vont se dire oui, mais si j'ai eu un accident, c'est que je savais pas faire. À l'époque, une console, c'est une console, un simulateur, c'est un simulateur. On ne souffre pas d'un accident sur un simulateur. On s'est dit, mais attends, le mieux, c'est de prendre des choses qu'ils savent faire, d'accord ? C'est-à-dire conduire un ballon depuis l'âge de 5 ans, tout le monde le fait entre les plots. Et c'est quelque chose qui reprend exactement ce qu'on appelle des activités de tracking, c'est-à-dire c'est comme la conduite, ça fait appel au même principe. Donc on se dit à un moment, on va dupliquer la conduite en parcours technique de football. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aidé, comme tu peux le voir dans la vidéo, par l'ECF, l'École de conduite française, qui a totalement compris tout de suite quel était l'intérêt. D'ailleurs, au même titre que les autorités, au départ, je remercie la préfecture du Rhône, Françoise Mollaret et directeur de cabinet, Monsieur Montré-Jourdan, qui se sont emparés de nos idées parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai message à faire passer grâce au sport, grâce au football. Et c'est vrai, comme tu dis, quand on les fait passer sans téléphone et avec téléphone, c'est comme d'être au volant avec téléphone et sans téléphone. C'est des mêmes problématiques. Et notre parcours a été étudié justement pour pouvoir provoquer des réactions attendues, notamment la prise d'information au moment où on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui oublient de faire le 1-2. avec l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il y a une perte totale de repères. Aussi, on a vu sur le premier slalom des jeunes qui ne font pas le slalom en lacet comme on leur explique, donc et qui vont d'un plot à l'autre de manière totalement aléatoire. Donc là, on a, comme en plus de ça, on a un vidéaste qui tourne en travelling avec nous, on débriefe dans un deuxième temps, on transfère en langage sécurité routière le langage football, et ça permet aux jeunes de comprendre tout de suite, comme si on débriefait un match, en fait, on reste dans leur univers. C'est-à-dire, c'est comme, comme on disait au bon vieux temps, le tableau noir, c'est-à-dire qu'on va débriefer en vidéo les actions du match. Donc on a choisi certains joueurs par rapport à certaines caractéristiques, et on va débriefer, et on s'aperçoit souvent que les joueurs les plus talentueux sont ceux qui ont le plus de problèmes.
D'accord, ah, intéressant.
Mais il n'y a pas que les ateliers techniques, donc là, la Fédération française, à travers Open Football Club, et je remercie Guillaume Naslin et Fontine de nous avoir, là encore, ils ont tout de suite adhéré au concept, ils nous ont ouvert les portes de Châteauroux et de bien d'autres clubs, puisqu'on est en attente d'intervention sur des clubs professionnels français, dont Auxerre, Paris, Quevilly, Brest, qui sont venus tout de suite taper à la porte à l'issue du visionnage de cette vidéo. Donc il y a des sensibilisations, c'est-à-dire que je me mobilise à titre personnel dans le cadre de visioconférences en entreprise. Vous les trouverez aussi sur les réseaux sociaux. La dernière en date, c'était ITC Traduction, qui est une société de traduction qui est partenaire de Step 15. Donc faire des témoignages, aller sur des ateliers de sensibilisation. Notre site internet est une vraie source également de sensibilisation, puisque l'idée, c'est de faire venir les jeunes grâce aux maillots signés, dédicacés, qu'on va mettre en place dans le cadre de nos loteries. Pour lancer notre Instagram, c'est un maillot de Dayo Upamecano signé qui va être proposé. Donc on espère que tous ces jeunes qui aiment le football et qui suivent ce joueur vont venir sur Step 15 au moment où on doit déclencher justement l'achat d'un ticket de loterie. On est obligé de voir une vidéo de sensibilisation.
Ah, très bien, très très bien.
Donc on remplit notre mission de sensibilisation à travers cette vidéo-là. Donc ce ne sont pas des vidéos violentes, on tient à le préciser, ce sont toujours dans le cadre de nos valeurs qui sont authenticité, bienveillance, détermination, inspiration. C'est souvent en lien avec le sport ou avec l'humour. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des vidéos qui ont été reconnues comme très efficaces pour faire passer le message du texte en live. Voilà. Et pour terminer, une application qu'on est en train de mettre en place pour...
Justement, si on veut vous aider ou en savoir plus, est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site, quelques réseaux sociaux, etc.
Alors le mieux, c'est de venir sur www.steph-6cares.org. Il y a une possibilité de nous envoyer des emails qui nous arrivent directement, de faire des dons, de participer. Alors, la première loterie le sera, je pense, début avril. Donc c'est pas un... Mais là, on va communiquer sur nos réseaux sociaux. Le mieux pour nous suivre, pour les tombolas, ça sera de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook. On est présent sur ces quatre réseaux et toutes les annonces de loterie de maillots vont être annoncées sur ces médias-là. Sachant qu'on n'a pas encore lancé officiellement, on attendait justement d'avoir la première loterie pour communiquer officiellement sur LinkedIn. Moi, par exemple, auprès de ma database de contacts, je n'ai pas encore parlé trop de Steph Cairns, mais ça va être très, 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 très vite arriver. Donc, il faut nous soutenir. Vous pouvez faire un don, vous pouvez vous impliquer dans une action, c'est-à-dire demain, une intervention, un atelier technique. Vous êtes sponsor d'un club, amateur, professionnel, peu importe. On est là pour sensibiliser le plus largement possible. Vous êtes sponsor, vous dites, bah, tiens, je voudrais faire venir Steph Cairns. Vous pouvez totalement financer notre intervention. Voilà, c'est une manière de participer très concrète. Vous nous appelez, on va dire, écoutez, vous voulez peut-être participer au financement de l'application? Est-ce que vous voulez financer un atelier technique? Alors, bientôt, on ira en entreprise. On est en train de réfléchir à un atelier pour les entreprises. Est-ce que vous souhaitez que je vienne sensibiliser dans votre entreprise, raconter mon histoire ou ce genre de choses? Donc, effectivement, ça prend du temps, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir non plus dans le milieu du football. comme tu as compris, c'était une mission personnelle. Il fallait que je le fasse, il fallait qu'on lance ce projet. Il y a la famille, c'est presque une association familiale, hein, Steph Cairns. Il y a beaucoup de monde de la famille et des amis très proches qui ont vécu ce drame à mes côtés. Donc, c'est une mission qui passe avant toute chose dans mon idée. Et c'est pour ça que j'ai mis, entre guillemets, mon expérience de recrutement. J'ai quitté Manchester aussi pour d'autres raisons, mais à cause du Covid, on n'a pas avancé assez rapidement. Il fallait impérativement qu'on soit présent sur le terrain. Et je me suis dit, écoute, quitte à partir de Manchester, va, monte l'association. Et puis, de toute façon, après, tu auras d'autres opportunités.
Et puis, puisque je sais qu'il y a des éducateurs, des formateurs, des recruteurs, des entraîneurs de clubs professionnels qui nous écoutent, eh bien, c'est une bonne idée d'intervention, d'action à mener, alors à la fois auprès des effectifs professionnels, mais aussi des jeunes, pour les sensibiliser à cette pratique. Et effectivement, un texto, ça peut toujours attendre la fin d'un trajet avant d'être consulté. On arrive au bout de l'entretien, Romain, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Soit tu as un nom directement à me soumettre, ou peut-être deux, peut-être trois, ou plus simplement un métier que tu aimerais que les auditeurs puissent approfondir dans les prochaines semaines.
Je pense qu'un président de club, ça serait pas mal. Je vous aurais bien recommandé Roland Romeyer. Moi, je vous proposerais Roland parce qu'il a une belle histoire humaine à raconter. En tant que président, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant que supporter dévoué, qui est parti jusqu'à Simferopol pour voir ce fameux quart de finale contre Dynamo. Voilà, dans les années 76, partir en Union soviétique, c'était pas donné à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ce côté passion, le côté homme derrière le président. Après, je pense que si on gratte, je te dirais, va parler avec Ferguson, mais si tu peux.
Il y a une difficulté, c'est la langue. Et en podcast, malheureusement, il n'y a pas de sous-titrage.
Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être...
Mais je réfléchis, en tout cas, c'est vrai, je réfléchis à une manière de pouvoir interroger des personnes qui ne parlent pas français parce qu'elles auraient beaucoup de choses à raconter. Il faut juste trouver techniquement...
Ça te donnerait un point de vue culturel complètement différent et ça enrichirait encore plus le débat, je pense.
Exactement, il faut juste trouver techniquement comment faire un truc à peu près propre et joli et audible, surtout. Donc, ça fait quand même pas mal de paramètres. Mais j'y pense, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain Poirot pour ta disponibilité, pour ton temps, pour ce long échange et à très vite.
À très bientôt, au revoir.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.